Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Je me suis dit, pourquoi pas moi, artiste, quand j'ai touché pour la première fois un pinceau à 32 ans et que 3 ans après, j'exposais, par exemple, et que je vendais des toiles. Et là, vraiment, c'est pourquoi pas moi, autrice, mais vraiment qui publie des livres tous les ans. C'est décidé, en fait. Et c'est marrant, c'est des choses que j'ai longtemps senties inaccessibles pendant longtemps. Et en fait, c'est là, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre endroit. Et en fait, c'est presque facile. Et donc, je vois bien que ça me semblait difficile parce que j'étais très loin. Parce que j'étais au dernier rang, parce que je me voyais au dernier rang. Et en fait, là, c'est vraiment là, c'est présent, il n'y a qu'à se servir presque. Tu vois, c'est vraiment le plateau, le buffet est là. Il y a juste à tendre la main. Je remarque vraiment, j'observe qu'en effet, les fois où je me suis dit « pas moi », c'est parce que j'étais trop loin.
Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui une nouvelle femme hors du commun. Je me sens chanceuse de rencontrer des personnes aussi extraordinaires qu'Anne. Anne a commencé la première partie de sa vie à faire passer les messages des autres. Elle a démarré sa carrière en étant traductrice en langue des signes. Elle est devenue ensuite journaliste. Aujourd'hui, Anne est une artiste, conférencière, auteure et chamane. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Anne Cazobon.
Bonjour Anne.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît?
Oui, j'ai choisi un carnet et un stylo qui ne vont pas l'un sans l'autre, en fait. C'est assez facile de choisir un objet qui me représente parce que vraiment, si je te montrais une photo de là où je me trouve, je suis dans un antre de d'étagères Billy Ikea remplies, pleines à craquer de carnets griffonnés. J'ai des étagères de carnets griffonnés et des étagères de carnets vierges. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, un carnet. Et donc, évidemment, voilà, des carnets petits, moyens, avec des paillettes, avec des lignes blancs pour pouvoir dessiner. Voilà. Et donc, dans mes carnets, il y a des recettes de cuisine, un digicode, le croquis du monsieur d'en face dans le TGV, un début de chronique, 3 titres de bouquins, un nom de programme de coaching, un truc à faire lors d'une retraite. Enfin, voilà. Donc,
c'est ta vie.
Oui,
complètement. Et là, le carnet, la photo que tu m'as envoyée, que je partagerai sur les réseaux sociaux et sur le blog, il y a un beau A qui a l'air d'être en velours, en relief, qu'on a envie de caresser.
Ouais, j'aime bien les carnets un peu molletonnés. J'aime bien les, je trouve que, en tout cas, moi, j'ai besoin de douceur en ce moment, particulièrement dans ces temps hostiles. Et je trouve qu'un carnet doux comme ça, on a presque l'impression que c'est un carnet de naissance. Hein, j'aime bien, j'avais trouvé ça. Et en fait, avec mon compagnon, on travaille beaucoup sur notre couple que l'on nourrit dans des espaces. Et donc, j'avais trouvé 2 carnets avec, un avec un C et un avec un A. Et donc, on avait comme ça nos initiales vraiment de nouveau-nés du couple, appelés à renaître en permanence dans ces espaces-là, dans nos dialogues de couple. Et voilà, j'aimais bien ce carnet où on imaginerait quelqu'un racontant la première dent, les premiers pas. Et c'est, voilà, j'aimais bien un peu cette idée de ne pas savoir ce qu'il peut y avoir dans ce carnet qui est complètement tout molletonné. Et peut-être qu'à l'intérieur, il y a des récits super trash, des colères lâchées sur sa propre famille ou sur son enfance. Mais voilà, j'aime bien le côté bien emballé et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être plein de best-sellers.
Est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née?
Bien sûr. Alors moi, je suis née à Toulon parce que mon père, à l'époque, travaillait dans la marine. Donc, comme beaucoup de personnes qui sont nées à Toulon, Brest ou Lorient, voilà. Et ensuite, j'ai grandi dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne, à Ville-d'Avray, à côté de... Voilà, donc dans une banlieue plutôt privilégiée, hein, plutôt autour de la forêt. Moi, j'ai grandi dans le public. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir la forêt de Fausse-Repose à côté, même si j'ai grandi dans des immeubles et dans la ville, on a toujours été beaucoup en forêt. J'ai fait beaucoup de scoutisme, donc tous les dimanches, on les passait quand même beaucoup en forêt ou à aller faire un peu d'escalade dans la forêt de Fontainebleau. C'est vrai que mon père est vraiment très très proche de la nature et donc ça, on nous a toujours beaucoup emmenés en montagne, marché. Ma mère le virait avec les enfants, un peu le samedi matin et le dimanche matin, et
l'air.
On la marmaille et on mettait nos baskets et on partait. Et c'est vrai que ouais, c'est un grand sportif. Et pour le coup, très tôt, tu vois, je sais plus, on a fait l'ascension d'un 3000 mètres à 7 ans.
Enfin,
tu vois,
ouais, c'est incroyable.
Ouais, tu vois, très poussé là-dedans. Ouais, vraiment à la découverte de la nature, les marmottes, je sais pas quoi, très copain des bois, tu vois.
Et toi, ça te plaisait?
J'adorais ça et vraiment je sens aujourd'hui que dans ces reconnexions à la nature, dans cette voie du chamanisme aussi que j'ai embrassée, bah, qu'en fait c'était déjà là en fait sur ma route, c'était des petits cailloux. Ensuite j'ai moi-même accompagné, j'étais cheftaine de louveteau. Le scoutisme c'est un grand pan de ma vie très important. C'est marrant, j'entendais une émission sur France Inter hier, ils ont fait une heure sur le scoutisme, ce que je trouvais un peu lunaire en plein de pandémie mondiale de faire une émission là-dessus. Et c'était chouette, il y avait plein de gens qui appelaient pour raconter justement leur souvenir de scoutisme. Et c'est un endroit où j'ai appris plein de choses sur des valeurs vraiment, sur le groupe, sur le plus fort qui protège le plus faible, sur le côté grande sœur et en même temps qui peut être leader, inspirante aussi. Moi, à la maison, j'avais plus un peu le « tu ranges la chambre de tes frères et sœurs », tu vois, ils jouent et toi, tu trinques. Et c'est vrai que d'un coup, d'avoir des grandes sœurs potentielles, d'avoir qu'on me transmette des choses, qu'on apprenne. Je sais pas quoi, on a fait des cabanes dans la forêt, des nuits à la belle étoile, des spectacles aussi, beaucoup de créativité, très encouragée.
C'est de l'entrepreneuriat finalement, basé sur l'enfance, quoi.
Oui, avec un petit côté un peu MacGyver de, alors d'abord du jeu de piste, moi ça m'a beaucoup, ensuite quand, là j'écris beaucoup autour de synchronicité parce que j'en vis beaucoup au quotidien, et en fait bah, les jeux de piste dans la forêt c'était déjà ça, hein, c'était vraiment aller se mettre à l'écoute de la nature, du petit mot, du petit ruban accroché dans l'arbre. Aussi j'aimais aussi beaucoup l'interaction dans la société, d'aller, je me souviens qu'il y avait des explorations comme ça, où on partait avec, je dis n'importe quoi, un vieux pneu, et il fallait échanger et troquer l'objet un maximum de fois en allant sonner chez toutes les petites grand-mères dans les villages un peu reclus. Et donc c'était super, on se présentait, on avait une cheftaine, une assistante qui était un peu en retrait, mais qui nous laissait faire. Bonjour madame, on a des objets, on a une pomme à échanger, contre quoi vous voulez bien nous l'échanger? Et en fait, c'est vrai que moi, ça m'a donné beaucoup d'armes pour rencontrer mes semblables, tu vois, faire société, là où c'est tellement important, je trouve, ces derniers temps. Et donc, vraiment, d'aller s'adresser comme ça à un inconnu et de moi sentir que du haut de mes 8 ans, bah, j'étais aussi importante qu'une femme de 40 ans auprès de ce monsieur de 75 ans qui tentait de contenir son chien et de nous ouvrir dans sa maison. Donc.
Et à ce moment-là, toi, c'était quoi tes rêves à toi quand tu étais petite fille?
Alors moi j'ai dit à ma maîtresse de CP, qui s'appelait Madame Renard, c'est drôle, c'est déjà presque un peu chamanique, hein, il y a des objets, des animaux totems déjà, je lui ai dit que je voulais écrire des histoires pour enfants. Donc tu vois, à une époque, c'est marrant parce que en CP, les gens autour de moi, elles voulaient toutes être hôtesse de l'air, maîtresse d'école, infirmière. Barmaid,
vétérinaire.
Voilà, c'est ça. Oui, vétérinaire, tu as raison. Et moi, je savais que j'allais écrire des histoires pour enfants. Et en fait, j'en avais parlé avec un ami il y a quelques temps. Il m'avait dit, mais en fait, c'est ça que tu fais. C'est des histoires pour petits et grands enfants.
Enfants intérieurs.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment à tous les niveaux, peu importe. En fait. Mais vraiment, le raconter des histoires, c'est je crois que c'est ce qui est au centre de ma vie.
J'ai lu que tu disais que quand tu étais petite, tu jouais à te boucher les oreilles pour imaginer qu'un sourd pourrait t'entendre.
Oui, c'est-à-dire c'est pour imaginer ce qu'un sourd pourrait entendre. C'est-à-dire vraiment, ce qui me fascinait, c'était la perte d'un sens. Et peut-être à un endroit, la perte de sens, peut-être qu'il y avait quelque chose qui me manquait à ce moment-là. Et il y avait ce dessin animé à la télé qui s'appelait Laura ou je sais pas quoi. Laura ou la passion du théâtre. Et je me souviens qu'elle devait incarner une aveugle. Et donc, elle passait 3 jours dans une maison avec un bandeau sur les yeux à imaginer, à sentir le toucher du bois, du carrelage. Et en fait, fait, tout ça, ça me fascinait. Je sentais bien que je sentais bien plus que de raison. Je voyais bien qu'il se passait quand même des trucs, que j'avais de très fortes intuitions déjà, que peut-être déjà j'avais une grande clairaudience. Et c'est drôle parce que vraiment, j'ai des membres de ma famille qui... Il y a quelques années encore, on m'a dit, mais c'est marrant, quand tu étais petite, tu disais des trucs que personne ne disait. Et c'était quand même très bizarre de discuter avec toi. Tu nous regardais toujours un peu bizarrement, comme si, en fait, il y avait déjà plein de gens qui parlaient avec toi. J'ai un oncle comme ça qui m'a dit, tu as toujours eu un regard de petite fille très particulier. Donc, c'est intéressant.
Un regard dans ton regard littéral ou un regard sur le monde les deux, d'ailleurs.
Un peu les deux. Et il me dit, en fait, je sentais que quand tu me regardais, tu voyais au travers de moi. Enfin, il me dit, moi, c'était très déstabilisant. J'étais ton oncle j'avais cette petite fille qui avait l'air d'avoir un cerveau de femme de 50 ans dans une petite robe à smock, tu vois. Donc, c'est toujours intéressant en fait d'entendre a posteriori. Moi j'ai cru devenir folle 250 fois, donc d'avoir des validations, des confirmations aussi de ce que j'avais vraiment senti profondément, c'est venu apaiser et tranquilliser beaucoup de choses aussi par la suite.
Et donc là, si on reste sur le sujet là, justement des sens, à 14 ans, tu as décidé du coup d'apprendre la langue des signes.
Oui, c'est un peu bizarre ça. Tout le monde. Alors c'était l'époque aussi où c'était un peu à la mode entre guillemets parce qu'il y avait Emmanuelle Laborie qui était la fille du professeur Laborie, cette comédienne qui avait joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle Les Enfants du Silence, qui avait eu un Molière pour ça et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Le Cri de la Mouette. Et c'est vrai que c'était un peu cool, moi j'étais l'adolescente comme ça, il y avait un peu ce côté, j'aimais bien le côté un peu justement du scoutisme, on faisait les messages codés, il y avait les codes K égale 6, K égale 7, K6, K7, tout ça. Et donc en fait de connaître une langue que personne ne pouvait maîtriser, que moi seule, voilà, et puis là en plus la langue des signes c'est très esthétique, donc c'était... J'avais un truc un peu comme ça d'adolescente, j'ai envie d'apprendre ça, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout Internet, et que les dictionnaires de langue des signes, c'était des espèces de pavés qui coûtaient une fortune, et où il y avait vraiment, je ne sais pas quoi, les jours de la semaine, comme un imagier pour enfants presque, les couleurs, les légumes, les fruits. Et je me souviens que j'allais photocopier ça, je les avais vus à la bibliothèque, donc je les photocopiais à 10 centimes de francs.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'à l'époque, photocopier, c'était un truc colossal, c'était un budget énorme.
Et j'étais extrêmement motivée et je venais, et donc dès que j'avais un peu plus d'argent de poche, je photocopiais le chapitre d'après sur les objets dans la maison. Et donc j'apprenais toute seule la langue des signes, vraiment dans un... Oui, une espèce de projet personnel très fort. Et puis ensuite, j'ai commencé à me payer mes stages de langue des signes, où j'allais. Donc, à l'époque, les sourds avaient investi le château de Vincennes et puis ensuite, ils sont venus à Bastille. Et donc, je me retrouvais dans des stages de langue des signes avec des parents dont l'enfant ne verbalisait pas, des chorégraphes qui voulaient monter des spectacles qui étaient bilingues en langue des signes et puis en français. Et c'était un peu lunaire, en fait. Moi, j'étais jeune adolescente et puis voilà, de 14 à 21 ans, j'ai fait 14 stages, donc 14 semaines comme ça, trouvées entre, c'était une semaine à Pâques et puis une semaine à la Toussaint généralement, que je m'autofinançais totalement avec du babysitting. Donc avec le recul, je re-regarde ce projet-là et je me dis mais c'est un peu fou, c'est très déterminé et très engagé déjà.
Clairement.
En fait, je savais très bien ce que je voulais faire.
Et tes parents, comment ils ont accueilli ça quand tu leur as dit « je vais aller passer ma semaine de vacances de la Toussaint dans un stage de langue des signes ?»
Alors, c'est marrant parce que donc, mon père disait « oh là là, mais qu'est-ce que tu fais à agiter tes petites mains là ?» C'est un peu tout, c'est fou. Il avait beaucoup de jugement pour ça parce qu'il ne connaissait pas bien. Et alors, ma mère, il y avait quelque chose d'un peu, c'est très noble. « Oh, Anne, elle s'occupe un peu des handicapés. » Il y avait quelque chose un peu, c'était bien de dire ça dans les dîners, tu vois. Ça faisait bien, évidemment, de... Hein, c'était mieux que de fumer des clopes à la sortie du collège.
Pire.
Oui, voilà, ou de me teindre les cheveux et de rêver que et de ne parler que de chiffon, tu vois. J'avais un peu ça aussi, mais c'est vrai que j'avais un truc un peu très grande sœur, Anne ma sœur Anne, tu vois, un truc un peu dévoué comme ça. Donc oui, ça faisait quand même, ça faisait la fierté de ma mère. Ça, je vois bien à un endroit.
Et tes amis?
Alors mes amis, bah, c'était un peu, il y avait un truc un peu cool quand même de connaître la langue des signes, tu vois, je pouvais leur apprendre un peu. Entre mes frères et sœurs, du coup, je leur avais appris un peu quelques signes. J'avais même accueilli dans, avec les Louveteaux, du coup, on avait ouvert à un jeune garçon sourd qui est venu, et du coup, c'était chouette parce qu'on avait, j'avais fait un petit dictionnaire pour les autres enfants, et donc tous les jours, on apprenait 10 nouveaux mots. Donc c'est, voilà, c'est dans de l'inclusion et dans de l'accueil et de l'ouverture, bah, je faisais ma petite part de colibri à ce moment-là. Et je trouvais ça plutôt chouette. Mais moi, j'aimais bien. Il y avait quelque chose un peu de... Je sortais du lot, tu sais, à l'adolescence. On aime bien quand même se distinguer des autres. Et donc, j'aimais bien cultiver cette originalité-là.
Et au moment de choisir du coup tes études, comment ça s'est passé pour toi?
Alors moi, je rêvais profondément quand même d'être journaliste, d'aller raconter des histoires. Mais alors ça passait absolument pas. Ça vraiment, c'était...
Par rapport à tes parents?
À mes parents. Ah, et mon père disait vraiment... c'était quoi? Il disait, c'est chien de caniveau. C'était... Donc c'était... ma fille ne tombera pas là-dedans. C'est vraiment... Tout sauf ça, tu vas pas aller raconter aboyer avec les chiens. Enfin, ouais, y a vraiment un truc très.
En plus, ouais, étant militaire, enfin moi je sais que je connais pas beaucoup de militaires, mais quelques-uns. Et en effet, il y a les militaires ont un rapport avec le journalisme très particulier et pas une vision très positive de la chose.
Tout à fait, et d'autant plus que par la suite, ensuite j'ai travaillé quand même pour la chaîne parlementaire et pour le journal de la défense. Donc tu vois, je restais un peu là-dessus. Et je suis allée faire parler justement les militaires dans des micros. Donc, c'était vraiment en tant qu'ancienne muette, de faire parler la grande muette, il y avait quelque chose de très... c'est un peu Inception. mais c'est vrai que c'est vrai que ça passait pas trop là. Vraiment le journalisme, non c'était pas trop ça. Donc j'ai fait une fac d'anglais parce que voilà, les langues toujours, moi j'ai une facilité avec ça. J'aime beaucoup voyager, j'ai beaucoup baroudé toute seule avec mon petit sac à dos et mon micro, et donc je me suis dit, l'anglais, avec l'anglais je ferai tout. Et donc je me suis un peu embarquée dans une fac d'anglais qui m'a permis quand même d'aller passer une année à Montréal et d'apprendre la langue des signes québécoise, la langue des signes américaine, la langue des signes française. Donc c'était un peu bizarre d'avoir ça sur un CV, d'autant plus qu'à mon retour, en effet, donc j'ai fait un troisième cycle de médias programmation.
Attends, juste avant ça, juste parce que là c'est une petite question de culture générale, la langue des signes canadienne, c'est pas les mêmes langues des signes en fonction des pays.
Pas du tout, en effet. En fait, c'est bel et bien une langue et pas un langage. Hein. Un langage, c'est presque codé. Une langue, c'est vraiment statué. Et là-dessus, on peut quand même dire un grand merci à Jack Lang, le bien nommé, d'avoir, quand il était ministre de la Culture, vraiment instauré le fait que la langue des signes est une langue, que tu peux l'apprendre au même titre que l'espagnol, le russe, le chinois.
Okay.
Ça n'est pas un dialecte, donc, et c'est une langue avec sa culture, avec ses jeux de mots, c'est magnifique, avec sa poésie. Et en fait, l'histoire, le bassin, le berceau de la langue des signes, c'est vraiment c'est la France, en fait. Mais à un niveau mondial, en fait, on parle de l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, il y a l'Institut des jeunes sourds à Paris, rue Saint-Jacques, dans lequel il y a une énorme statue de l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, c'était un prêtre qui a recueilli beaucoup d'enfants qui étaient un peu laissés à l'abandon, et notamment deux sœurs jumelles qui étaient un peu autistes, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles avaient été abandonnées, et qui avaient établi entre elles une espèce de langage codé, signé. Et en fait, en les observant, mais ça, je te parle de ça, je crois que c'est dans les années 1720-1730, et en fait, en les observant codées entre elles, il a statué, en fait, vraiment en disant, homme, ce sera... Alors, c'est très intéressant parce qu'en langue des signes, c'est pas du tout radiophonique ce que je vais faire, mais en langue des signes, on peut aller regarder l'histoire d'un signe. Par exemple, le mot homme, c'est comme si je me lissais la moustache, par exemple, et donc c'est vraiment, on imagine aujourd'hui, il y a un peu le retour des hipsters, mais la moustache, c'est vraiment, voilà, on imagine ces hommes de 1750-1800 qui avaient une moustache. Femme, en fait, c'est un doigt qui glisse comme ça à la verticale sur la joue, et en fait, c'est, tu sais, ces espèces de bonnets cagoules que les femmes avaient. Et donc, ça parle de la ficelle qu'elles avaient pour l'accrocher. Donc, il y a plein de signes comme ça qui sont un peu ancestraux. Et donc, on dit que c'est vraiment le berceau de la langue des signes, c'est la France. Et en fait, tous ces jeunes prêtres sont ensuite allés aux États-Unis, hein, dans l'Amérique, les Indes, en fait, et donc l'Amérique, et sont venus coloniser, en fait, c'est quand même le clergé qui était très présent, et en fait, la langue des signes américaine a été adaptée à partir de la langue des signes française, et la langue des signes québécoise également. Mais, okay. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un langage, une langue qui s'appelle le gestuno, qui est l'espèce d'espéranto en langue des signes. Et ce que l'on dit, c'est qu'un sourd américain et un sourd chinois mettront toujours moins de temps à se comprendre qu'un américain et un chinois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une base.
Il y a une base, oui, ok.
Une forme de grammaire un peu quand même commune. Moi, je me souviens, quand j'avais été en Chine, justement, j'avais vu des sourds et je les regardais. Et quand même, on arrive à percevoir un peu de quoi ils parlent.
Un peu comme un espagnol et un français, quoi.
Oui, et puis c'est surtout qu'en fait...
Tu mets un O et un A à la fin de chaque mot et...
En fait, c'est surtout qu'en langue des signes, quand même, on est en portrait américain. On ne parle pas, par exemple, le mot chaussure, on va le faire avec les mains. Donc en fait, c'est comme si on était coupé à la taille, à la ceinture. Et donc, il y a quand même quelque chose un peu du mime où la tête, ça va être le poing. Et puis à un moment donné, ils vont avancer comme en file indienne. Donc on est presque dans de la marionnette à des endroits. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la suppléance mentale qui peut permettre de comprendre, okay. Voilà, globalement.
Et ça, du coup, tu as été donc interprète en langue des signes ?
Oui, je suis diplômée, c'est mon premier métier. C'était d'ailleurs un peu bizarre parce que moi, en effet, une fois que j'ai eu passé tous ces stages de langue des signes, bon, bah, j'étais bilingue en langue des signes, super, ça me faisait une belle jambe, mais qu'est-ce que je faisais de ça ensuite ? Et c'est vrai que quand j'étais au Québec, j'avais fait un stage dans une école pour enfants handicapés, dont les parents, donc québécois francophones, mettaient leurs enfants en fait dans cette école-là pour qu'ils apprennent la langue des signes américaine, pour leur ouvrir le maximum de chances. Enfin, il y avait toute une stratégie mise en place aussi pour justement d'inclusion pour ces enfants en situation de handicap, d'ailleurs, on dit maintenant. Et en fait, moi, j'ai à cette époque-là, j'ai 19 ans, et il y a ce prof qui est là et qui saisit n'importe quel sujet pour faire classe, du système solaire qu'on va faire en papier mâché à cette poésie qu'on va tous composer ensemble en cadavre exquis. Enfin, et je trouvais formidable, il n'y avait pas du tout de programme, et tout était créatif, tout était création, tout était joie. Et moi, j'ai eu un flash. J'étais dans l'arrière de cette pièce, là, de cette salle. Et je me suis dit, mais en fait, moi, plus tard, je veux faire ce qu'il fait. C'est l'éclat. C'est génial. Il y a de la peinture, il y a des paillettes, il y a du carton, et il y a un grand écran. Ils ont des moyens parce que, en plus de ça, c'est des écoles qui sont vachement subventionnées. Donc, c'est super. Et donc, là, j'ai été la super assistante pour ce monsieur-là toute cette année-là parce que moi, je venais dès qu'il fallait me monter en une pièce de théâtre, un truc. Voilà, j'étais là. J'ai adoré ça, et c'est vrai que qu'ensuite, en devenant interprète, j'ai un peu plus déchanté en me confrontant davantage à la réalité de ce qu'est ce métier-là, où il y avait une part de moi qui justement était un peu dans l'assistanat, un peu dans la sauveuse, et que de me rendre compte en fait que un sourd, je me souviens, c'est ce qu'on m'avait dit, un sourd, il déteste l'interprète en fait, il n'a pas d'autre choix que de s'en servir. C'est un peu comme l'aveugle avec sa canne blanche, ou ouais. La personne diminuée dans sa chair physiquement avec son fauteuil roulant. Donc c'est vrai que là, d'un coup, c'était moins glorieux, c'était moins reluisant comme métier. Et puis surtout, je me trouvais, j'étais très jeune, et je me trouvais confrontée à venir interpréter dans des situations vraiment très difficiles, dans des situations d'abus, des situations...
Par exemple, tu étais sollicitée quoi, par exemple, par la police ou...
Par la police, par exemple, tu vois, je me souviens d'une intervention dans une usine où parfois, donc voilà, des travailleurs isolés, sourds, on peut imaginer qu'ils encaissent toute l'année des choses difficiles, et que le jour où l'interprète vient, ils sortent un dossier, un tableau Excel avec tous les trucs qu'il faut aller dire à un tel, les règlements de compte à OK Corral. Et c'est vrai que j'arrivais dans des climats de tension très fortes, et où les mots que j'allais poser moi en tant qu'interprète, ou les signes que j'allais faire, avaient un enjeu immense. Ouais. Avaient un enjeu de licenciement potentiel, d'envoyer le père en prison pour abus,
une énorme responsabilité, quoi.
Et en fait, ça m'amenait dans cette fameuse triangulaire qui me fait sortir de la bilatéralité, hein, et pour moi qui venait justement de la communication, c'est d'un point A à un point B, voilà, un émetteur émet un message qui va être reçu par un récepteur. Mmh. Et là, d'un coup, on rentrait dans une triangulaire avec des enjeux affectifs plus, et où je me souviens de ce greffier qui tapait les mots que je traduisais de cette jeune sourde qui, entre son code familial et la langue des signes, semblait raconter voilà, quelque chose, et où moi je mettais des pincettes parce que bah, je sentais bien que les mots que je disais faisaient preuve juridique. Et je me souviens de ce greffier qui s'arrêtait, qui levait la tête en disant « Mais quand vous dites vraiment qu'il a fait ça, est-ce que vraiment c'est ce terme-là ?» Enfin, et je sentais que mes mots avaient un poids immense. C'est vraiment une des premières fois où j'ai pris conscience vraiment du pouvoir de la parole, du pouvoir des mots, et ça m'a suivi ensuite. Sauf qu'en fait, ce n'était pas les miens vraiment. Et ça n'a été, si tu veux, tout le chemin, ça n'a été que de se rapprocher de ma propre vérité et de choisir à mon emploi, de la manière la plus juste pour moi, le mot qui disait ma vérité au monde. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que finalement, en fait, j'ai transposé en me rapprochant de plus en plus de qui je suis, de être interprète, puis ensuite tendre des micros vers des gens qui pouvaient dire à la limite ce que j'avais à l'intérieur. Tu vois, ça peut être ça, hein, le journaliste, il va vraiment, surtout celui qui veut faire du no comment, tu vois, il va vraiment tenter de trouver des gens qui vont dire ce qu'il a à l'intérieur. Et puis pour venir de plus en plus, dans des cercles de parole et aujourd'hui parler pour ma voix, en fait.
Ouais. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'as quitté ? Donc, on comprend donc le cheminement que tu n'étais pas bien. Donc là, t'as repris tes études pour pouvoir, du coup, devenir journaliste.
Oui, j'ai vraiment. Donc, tu vois, j'étais diplômée interprète et en fait, je me suis dit, c'est vraiment pas ça, en fait. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de l'annulation de soi qui était trop fort, qui était vraiment travailleur de l'ombre, qui était pour moi. Et j'avais tellement de choses à dire à l'intérieur. Tu vois, vraiment, je sentais un bouillonnement des idées, des choses, et je sentais que c'était une petite mort, en fait, vraiment que de choisir cette voie-là, j'allais m'éteindre à petit feu, et je le sentais déjà dans les études, tu vois, tu sens parfois quand même que si c'est ça ou pas.
Que t'es pas à ta place.
Oui, on était à l'époque filmés en cassette VHS, tu vois, parce que pour traduire, on s'entraînait à traduire des discours politiques de Sarkozy, de Raffarin. Donc on a la seule trace de cette année-là, c'est une cassette VHS où tu vois, on te voit physiquement. J'avais une vingtaine d'années et je me souviens à l'époque, moi j'étais très exubérante, j'avais plein de couleurs déjà, enfin voilà. Et en fait, à la fin de l'année, mais je suis en col roulé noir, j'ai plus de rouge à lèvres, j'ai plus de vernis sur les ongles, j'ai plus rien. Enfin tu vois, c'est vraiment enlève tout ça, gomme tout ça. Et puis, reste dans un coin et puis on appuiera sur un petit bouton pour que tu puisses traduire avec tes petites mains.
Et puis, tu puisses apparaître en bas de l'écran.
Et en fait, pour moi, c'était vraiment, ça a été descendre très profondément pour aller voir jusqu'où une part de moi était prête à aller s'annuler. Vraiment, je parle d'annulation de soi parce que se couper de ses mots, se couper de sa vérité, ça fait partie vraiment de venir se... Oui, c'était déjà une forme d'auto-sabotage. Mm-hmm. Le petit suicide, quand même, à un endroit. Ouais.
Et donc là, tu reprends tes études. Qu'est-ce que, pour devenir journaliste, qu'est-ce qu'il dit, papa ?
Et là, c'est difficile. Mais comme, en fait, ils m'ont vu quand même pas très bien, ils se disent, à la limite, je passe les concours. Et puis, moi, il y a toujours eu un truc où, si j'ai les concours, ça le fait, en fait. Et puis, moi, j'aimais bien ce truc de, s'ils voient que c'est fait pour moi, si l'univers voit que c'est fait pour moi, ils vont m'ouvrir une porte, quoi. Et je me suis retrouvée donc dans une école à Nantes donc qui parlait de programmation. J'aimais bien cette idée aussi un peu, voilà, programmation. Moi, je voulais vraiment faire du documentaire télé. J'adore Striptease, cette magnifique émission belge. Et donc, je rêvais d'aller me balader avec une caméra et d'aller rencontrer les gens, faire des reportages au long.
La vraie vie, quoi.
Ouais. Les gens, les glaneurs et glaneuses de marché, le journalisme social beaucoup. Moi, j'ai toujours quand même été vraiment dans les associations, dans le bénévolat. Et donc, les petits frères des pauvres, les prisons, les migrants. Voilà, J'avais très, très envie de ça. Et donc cette année de journalisme, vraiment, je m'éclate à fond. J'adore ça. J'ai un prof de radio qui me dit, en fait, tu as une voix faite pour être entendue. En fait, il faut que tu parles dans des micros. Tu le sais pas encore, mais lâche la caméra et viens raconter des trucs. Et puis, voilà, tranquillement, voilà, ça m'a fait cheminer vers la radio. Et puis, j'ai eu la chance d'atterrir dans une super radio à l'époque qui s'appelait OuiFM, qui s'appelle toujours OuiFM, et qui a été vraiment pour moi des années mais magnifiques de concerts, de manifestations, voilà, d'actualités parisiennes et culturelles, dans une super équipe où j'ai gardé beaucoup d'amis et où c'était le bon moment aussi pour voilà, tenter plein de choses, des chroniques. J'ai fait des trucs un peu rigolos et surtout pu explorer vraiment tous les potentiels d'un micro, et ça c'était vraiment super.
Et quand du coup tu t'es lancée chez OuiFM pardon en tant que journaliste chroniqueuse et puis après journaliste matinalière, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur de te dire voilà, c'était un changement de métier? T'avais quel âge d'ailleurs à ce moment-là?
Donc là, j'ai 23 ans, et alors ce qui est très drôle, c'est que j'ai vraiment, tout ceci est un peu jeu de piste, c'est-à-dire que le jour où je vais passer l'entretien pour ce stage à OuiFM, je rencontre mon prof de langue des signes dans le métro.
C'est fou.
Et c'est vraiment, il me tape sur l'épaule, et en fait, comme la radio est à Bastille, et les cours de langue des signes étaient à Bastille, et donc lui est persuadé, en fait, que je vais aller un cours de langue des signes, et en fait, je lui dis, ben non, là, je vais passer un entretien pour une radio, et en fait, je sens qu'il est déçu, je sens qu'il vit une trahison. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'un peu plus tard, au sein de cette radio, je ferai un reportage. Je me souviens, c'était à la Cité de la Villette. On pouvait venir vivre l'expérience d'être sourd. Et donc, on te prêtait un casque qui écrasait comme ça un peu l'oreille interne, enfin le tympan, donc pour vraiment rentrer dans une espèce de cocon. Et je me souviens que j'avais fait un reportage sur cette attraction culturelle. Et il y avait une interprète en langue des signes et moi avec mon micro. Et en fait, j'avais le micro d'un côté et je signais de l'autre. Et je me souviens de la jeune interprète qui était quelques promos en dessous de moi, mais en fait qui était passée exactement au même endroit que moi dans la même formation d'interprète. Et à un moment donné, elle m'avait dit, écoute, je sais pas, là, tu tiens le micro, tu signes, vas-y ton camp en fait, parce que je suis perdue. Et pour moi, ça a été un déclic hyper fort de, tu vois, que c'était vraiment à la charnière, quand même vraiment un pied dans chaque monde. Et en fait, ça a été pour moi, je choisis la voie du son, la voie de l'expression, la voie du micro, la voie du porte-voix à cet endroit-là. Et donc, vraiment, je montais, je sentais que, tu vois, ça me faisait monter des marches un peu depuis le fond.
De prise de conscience.
Depuis le fond du silence abyssal où, bah là, au moins, les enceintes étaient branchées, tu vois, le micro était enclenché. C'était pas encore moi qui parlais vraiment, mais au moins je tendais le micro. Tu vois, j'étais plus dans un truc silencieux avec les mains. Et ça a été comme ça que des marches un peu à remonter vers une de plus en plus d'expression de soi, en fait, quel que soit le terrain de jeu d'ailleurs.
Et d'ailleurs, après, du coup, tu as été voix off bilingue anglais, donc tu as encore traduit, entre guillemets, traduit.
Donc j'ai prêté à la voix off, c'est prêter sa voix pour d'autres en fait. Et alors ce qui était intéressant, c'est justement que par exemple sur du doublage pur, on enlève la voix anglaise et on met ta voix. Et puis moi je faisais aussi beaucoup de ce qui s'appelle de la synchronisation en vidéo. Donc ça peut être, tu vois, des émissions une télé-réalité américaine où on entend la voix anglaise mais un peu basse, et toi par-dessus tu mets une voix française. Donc
c'était ce qui met un peu plus de pression, parce que du coup les gens qui parlent anglais peuvent se dire non mais attends, enfin moi d'ailleurs, enfin je suis pas complètement fluente, puis je parle quand même bien anglais, et parfois tu vois, tu t'entends, tu vois la traduction, tu te dis mais ça veut pas du tout dire ça. Et du coup ça, quand tu fais ça, j'imagine qu'en effet tu dois être encore plus sûr de toi, parce que il peut y avoir un jugement de comparaison.
Oui, alors moi je le voyais plus comme un jeu quand même. Il y avait un peu ce truc de et si je jouais la vie d'un autre. Tu vois, c'est marrant, je suis pas comédienne, etc. Mais à cet endroit-là, j'étais comédienne voix off, et donc il y avait ce truc un peu du jeu quand même de et si je jouais la vie d'un autre. Mais c'était un peu ça déjà en langue des signes. Tu vois, quand tu t'interprètes, tu te mets dans l'énergie de l'autre. Si la personne est très en colère, tu vas dans ta gestuelle, dans ton, enfin voilà, et essayer de faire paraître et transparaître ça. Et donc c'est voilà cet endroit où encore une fois un peu un pied chez l'autre, un peu chez moi. Et ça c'était intéressant, ça m'amenait de plus en plus à venir trouver ma propre voie aussi. Hein. Là aussi ça me resserrait de plus en plus. Parce que je me souviens que quand on me disait derrière la vitre, bah là, en fait, tu vois, il faudrait me le faire un peu plus comme ci, un peu moins comme ça, ça m'énervait, en fait, tu vois, d'avoir à coller à l'énergie de quelqu'un, en fait. Je sentais bien qu'il y avait une part de moi qui n'avait pas voix encore au chapitre, qui ne pouvait pas dire justement quelle était sa réalité, quel était son message au monde. Et donc, bon, je me débattais un peu avec tout ce que je me rajoutais comme nouveau porte-voix.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé ta voix ? Il y a eu un moment fondateur, on va dire, dans ta vie, ce fameux moment où tu es sur un quai de métro.
Oui, parce qu'en fait, dans l'annulation de soi, tu vois, je crois vraiment... c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que la surdité, que le manque d'expression, peut vraiment plonger dans une grave dépression, hein, parce que c'est vraiment c'est un handicap qui n'est pas physique mais qui est vraiment psychique, et donc ça fait partie un peu de ces blessures invisibles là, de la santé mentale notamment, et donc moi vraiment à 23 ans de sentir que je ne peux pas avoir vraiment voix au chapitre, de sentir que j'ai plein de choses à dire, de sentir que je suis dans une impasse, de plein de choses de l'enfance qui remontent, de me demander comment je vais composer avec qui je suis dans ce monde. Enfin, vraiment, il y a quelque chose... il n'y a pas d'issue de sortie, en fait. C'est vraiment un endroit où je ne vois pas vers qui me tourner. J'ai instauré depuis très longtemps, à ce moment-là, un masque, justement, de la jeune fille, bien dans ses pompes, très bénévole, qui s'occupe de tout le monde sauf d'elle, et donc, qu'elle a avec les enfants handicapés, les trisomiques, tous les sourds, etc., qui donne pour les frères et sœurs, qui soutient la mère, etc., et en fait, mais qui pleure tout ce qu'elle peut dès qu'elle est planquée dans un coin. Et donc ce jour-là, je me retrouve sur ce quai de métro, et vraiment je vois tellement qu'il n'y a pas d'issue que je décide d'en finir. Et donc je vais écrire une lettre que je vais laisser chez moi en me disant vraiment que voilà, là c'est j'imagine que en fait ça doit être génial quand on arrête de souffrir, et que en fait j'ai peur de prendre des médicaments, et je me dis non, en fait, je vais me jeter sous un métro. Il y avait ce truc un peu de la pulsion, et je vais donc dans cette station de métro,
c'était quelle station ?
Donc c'est Jacques Bonsergent, dans le 10e arrondissement. J'habitais juste à côté, rue Lucien Sans Paix. Donc évidemment c'était difficile de trouver la paix à cet endroit-là, et en fait donc voilà, j'y vais en milieu d'après-midi, et je pleure, hein. je suis une espèce d'épave de larmes, et je m'effondre un peu sur ce banc, à l'époque il y avait encore des bancs un peu sur le quai, et je pleure, et vraiment je suis là à attendre un truc, en fait, que je sais pas quoi, attendre de me ressaisir et peut-être de me jeter, ou bon, en tout cas je suis un peu au pied du mur, ou plutôt au pied des voies, et puis il se met à y avoir de plus en plus de monde, puisqu'on arrive à l'heure d'affluence, sortie de boulot, des écoles, etc. Et puis à un moment donné, en fait, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui reste là à côté de moi, mais qui est vraiment près de moi, et je sens même une présence qui est même comme courbée sur moi. Moi je suis complètement recroquevillée, et à un moment donné je reprends un peu mes esprits. Le fait que quelqu'un me sorte un peu de ma torpeur, de cette transe là qui tourne un peu en rond, de manière un peu auto-centrée, je me redresse, nos yeux se croisent, et en fait quand je vois le regard de cet homme là je comprends en fait qu'il a hyper peur de ce qui potentiellement peut se passer, et en fait je réalise, si tu veux, je vois que il me sort de ma transe. C'est vraiment une transe. Je vois quand les gens, et aujourd'hui en tant qu'accompagnante, je vois quand des gens sont dans un truc qui tourne en rond, une espèce de scénario qui tourne en rond. Il peut être verbalisé, ce scénario-là, il peut être aussi juste vécu, de vraiment l'histoire que je me raconte. Et en fait, le simple fait d'entrer en connexion avec un autre humain à ce moment-là me fait prendre conscience que, ah ouais, non, en fait, attends, je suis sur un quai de métro, qu'est-ce qui se passe,
Tu reviens dans le monde réel, entre guillemets.
Complètement. Mais comme tu as raison, dans le monde réel, c'est-à-dire comme si j'avais fait presque une sortie de corps, en fait. Tellement je me suis raconté un truc, et je réalise à cet endroit-là aussi combien on peut se raconter des trucs dans la vie qui ne sont pas du tout la réalité, qui sont vraiment un prisme de vue. Et je touche du doigt à ce moment-là un enseignement extrêmement fort pour moi et pour la suite, qui est que quand quelqu'un vient me voir et me dire « je t'ai vu à cet endroit-là, j'ai entendu ta peine, je te vois, je vois ce que tu fais ou je vois tout ce que tu fais pour les autres, etc. » Et bien en fait, ça vient être extrêmement réparateur. Ça peut être un regard, ça peut être une main, ça peut être une phrase. Moi, j'ai vraiment, par exemple, expérimenté une immense guérison par une seule phrase, mais guérison physique, tu vois, je suis en train d'écrire là-dessus. Mais dans un stage de développement personnel, de chamanisme, j'avais beaucoup œuvré pour le groupe. Tu vois, parfois, dans les dynamiques de groupe, il y a des gens qui sont un peu moteurs. Et il se trouve que dans ce stage-là, j'avais vraiment été au service de bien plus grands que moi et beaucoup œuvré et permis à beaucoup de personnes de se libérer émotionnellement, de mettre des mots sur des choses. Et je me souviens que la chamane qui était là, moi je venais à ce stage-là, j'avais vraiment un énorme abcès dans la bouche et j'arrivais pas du tout à parler et j'avais des grosses émissions à animer à la radio et je priais pour que ce stage soit totalement salvateur. Et à la fin du stage, elle a dit comme vous l'avez vu hier, il y a beaucoup de personnes parfois dans des groupes comme ça, il y a certaines personnes qui œuvrent pour le collectif et je voudrais qu'ils soient remerciés. Et bien, il y a une part de moi qui a vraiment pris ce remerciement pour elle. Et j'ai vraiment cette cloque intérieure qui s'est complètement résorbée en quelques secondes. Et je vois bien, mais vraiment physiquement, j'ai vécu une guérison presque miraculeuse, en fait. Je l'ai expérimentée dans ma chair et je crois que potentiellement, c'est l'expérience qui fait que je peux faire vérité de ça, pour moi en tout cas. Et d'avoir vu que ce regard-là voilà, peut aider, que cette phrase-là peut venir réparer, je comprends et je vois combien aujourd'hui, que ce soit dans l'accompagnement, mais même avec mes semblables, encore une fois, avec des gens dans la rue, en ces temps justement du repli sur soi ou chacun chez soi, etc., de venir dire « je t'ai vu, je vois ce qui se passe chez toi, je sens que ça a l'air compliqué, je te vois toi petit garçon, je vois dans tes yeux que mon Dieu à la maison ça doit être costaud », voilà, où je sens dans tes mots, dans ce que tu emploies, que ça a l'air lourd, et de venir valider ça en fait chez l'autre, mais déjà c'est énorme. 95% des gens, ils ont juste besoin d'être entendus, compris et validés.
Et donc là, tu as cette rencontre avec cet homme, tu te lèves.
Je me lève, je rentre, je cours. Je rentre et j'appelle une thérapeute. Enfin voilà, c'est un déclic très fort pour moi de là j'ai vraiment besoin d'aide. En fait je me racontais que j'allais m'en sortir, mais j'étais complètement dans un truc hors sol, hors réalité. Et je crois profondément en effet que j'aime beaucoup cette phrase d'Einstein qui dit que la folie c'est choisir de répéter toujours le même scénario en espérant un résultat différent. Et je crois vraiment profondément que on peut perdre beaucoup de temps à se raconter que on va s'en sortir. Il y a une réalité qui est que fondamentalement, nous n'avons pas besoin de nous faire accompagner de coach, de thérapeute ou quoi que ce soit. Je suis sûre que peut-être que j'aurais pu aller traverser le processus. Peut-être que sans ce monsieur-là, peut-être que j'aurais pu traverser un processus. Si ce n'est que grâce à toutes ces thérapies, ces coachings, etc., bah, ça a été beaucoup plus rapide.
C'est ça.
C'est fondamentalement, les gens n'ont pas besoin de se faire accompagner. Leur processus va prendre du temps, etc. En revanche, la vie est longue et elle est courte aussi. Et que
tu te fais mal et qu'il y a certaines cicatrices qui sont plus profondes que d'autres. Et
il le dit. Et tu vois, c'est vraiment Steve Jobs, il commençait, mais chacune de ses confs en disant « faites-vous coacher, faites-vous coacher, faites-vous coacher ». Quand je re-regarde, vraiment de regarder, c'est toujours intéressant quand même de regarder de temps en temps, de faire des petits points rétroviseurs, de voir des endroits où je me suis laissée malmener, et c'est tout là l'intérêt de venir reprendre la responsabilité de sa vie, mais de voir dans des trucs de boulot. Alors évidemment, il fallait que jeunesse se fasse et se passe, que l'expérience aussi soit engrangée, Je suis allée taper sur la même blessure, quitte à remettre du vitriol plus, plus, plus. À moi qui voulais dire, exprimer, je suis allée en effet, donc avec, je te dis, la grande muette, l'armée qui censurait tout ce que je proposais. Et c'était mais des blessures énormes, c'était vraiment très, c'était très fort. Ça venait taper comme si on me disait « tais-toi ». Et donc, qui est le pire des trucs qu'on puisse dire à quelqu'un qui cherche à s'exprimer, évidemment. Donc c'est vrai que l'accompagnement, c'est la clé. Moi, j'aime bien toujours imaginer, s'il me restait 3 minutes à parler, qu'est-ce que je pourrais dire au monde. C'est vraiment ça. Ça peut être vachement plus rapide, vachement plus doux, ça peut être joyeux. Je ne suis pas obligée de me dépatouiller toute seule dans mon bourbier. Tout le monde ne part pas avec les mêmes clés. Tout le monde ne part pas du même endroit. Tout le monde n'arrive pas dans son incarnation, sa famille, avec les mêmes sujets à traiter. Et que donc, y en a qui arrivent avec des super grosses valises et d'autres qui sont dans des expériences peut-être plus heureuses cette fois-ci. Et donc, je crois vraiment que... toute solution est bonne à prendre quand même, ou en tout cas toute aide peut venir faire miroir et éclairer et rapidement aider.
Moi, je partage complètement. Tu vois, d'ailleurs, c'est drôle parce que on voit des grands sportifs se faire coacher physiquement, mentalement, et pour eux, c'est normal. C'est comme la loi de l'attraction, visualiser quand c'est pour un grand sportif, c'est normal, mais quand c'est pour nous, simple humain ou simple collaborateur ou simple entrepreneur, ça marche pas. Les gens disent, non, c'est pas pour moi. Mais en fait, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Et puis, tu vois, je trouve que, toi, tu connais ça aussi, le burn-out, mais je trouve qu'on attend, et j'observe, moi, que vraiment, les gens attendent très longtemps et parfois trop longtemps. C'est comme dans un couple. À partir du moment où les gens se disent, tiens, quand même, là, faudrait peut-être se faire aider, mais ça fait déjà 5-6 ans que c'est chaud, chaud, chaud. Et donc, il y a des dégâts, on le sait bien, quand ça moisit, à un moment donné, c'est difficile de récupérer, cette image est terrible, en tout cas de revenir à quelque chose de sain, de blanc, de lumineux. Clairement. Et on peut vraiment s'abîmer, je le vois, dans un burn-out qui peut vraiment aller chercher un deuxième ou un troisième burn-out très rapidement. Moi, quand j'entends dans les stages auprès des personnes que j'accompagne, ils me disent j'en suis à mon troisième burn-out. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a que vous n'avez pas compris, en fait?
Ton corps t'a parlé très, très fort et t'as continué, quoi.
Ouais. D'aller chercher le job d'après encore plus violent, où ça va être encore plus l'escalade de la douleur et du challenge et tu vas être toute seule là-dedans et tenter de sauver tout le monde.
Et ça, je pense que le rôle de l'entourage est énorme, parce que tu vois, moi, je vois, suite à mon burn-out, j'ai continué à être chassée, et pour des postes encore plus gros que ce que je l'avais eu. Et si mon mari, évidemment, ma petite voix intérieure, elle me disait, Charles, faut pas y aller, mais t'as quand même ton ego qui est là, tu te dis, t'es au chômage, et puis en fait, c'est vachement prestigieux, machin et tout. Et si tu n'as pas ton entourage proche qui est là pour te dire... En effet, ça ne fait aucun sens, ça ne sert à rien. Si tu y retournes, ça va être bis repetita et tu vas te faire encore plus mal et tu es quand même déjà descendu quand même très, très bas. Mmh. Et si ton entourage proche n'est pas là aussi pour t'aider à justement te dire on ne sait pas ce que tu vas faire demain et on est quand même dans un beau brouillard, mais ce qui est sûr, c'est que ça, en fait, ce n'est pas ce qu'il te faut, quoi.
Oui, et puis alors l'entourage, et puis aussi se connaître et connaître, regarder le corps, ce que le corps dit. Moi, je me souviens d'un job comme ça qu'on m'avait proposé, et pourtant à l'époque j'étais intermittente, j'ai eu une vingtaine d'années d'intermittence, et c'est difficile l'intermittence. En radio, on peut apprendre quelques jours avant qu'on n'est pas reconduit, et qu'au milieu de l'été il faut trouver du boulot, c'est vraiment très, très précaire, très aléatoire. Tout le monde est interchangeable. Alors là, les égos, ça vient taper quand même sur « oui, mais elle est moins chère que toi et elle est plus jeune. » C'est très difficile. Ça vient souvent alimenter beaucoup de blessures. Et en fait, c'est vrai que Alors, attends, j'ai perdu le fil du coup. De reprendre.
Il n'y a pas que le rôle de l'entourage sur le fait de ne pas.
Que le corps peut vraiment nous parler, en fait.
Clairement.
Et que moi, je me souviens vraiment, donc c'est ça, j'ai vraiment très peu de sous à ce moment-là, et une amie me partage un plan de boulot. Et en fait, mais vraiment, j'avais mal au ventre en allant aux entretiens d'embauche. Et j'ai passé un processus interminable. Ils m'ont fait rencontrer toute la boîte. Et en fait, je ne voulais pas y aller. Dès qu'ils appelaient, je me disais, non, ce n'est pas possible. J'avais le cœur qui se levait. J'ai demandé un salaire mirobolant. J'ai demandé des RTT, des formations. Je me disais, à un moment donné, ça va se voir. Ils vont dire non. Ils vont dire, bah non, l'autre, elle est moins chère. On va la prendre, etc. Et en fait, non. Ils voulaient absolument que je vienne. Et le dernier entretien, je me suis cassé un talon en y allant. Je me suis quand même dit, bon. Donc j'ai passé, je ne sais pas quoi, le énième entretien en anglais. Et je me souviens de cette jeune femme à la fin qui m'a dit, écoutez, moi, je lirai vos livres avec grande joie, mais je pense qu'en fait, vous allez être très malheureuse chez nous. Et elle l'avait vu, en fait, elle l'avait senti. Elle voyait que je me forçais un peu parce que, bah, il fallait, enfin voilà. Et elle me dit, je vais vous faire gagner du temps. Et puis, à nous aussi, on adorerait vous avoir, mais en fait, je pense que c'est pas vous rendre service. Et j'avais trouvé ça super, fair play, en fait, c'était très, très chouette. Et là encore récemment, on m'a proposé un job et pareil, tu vois, quand t'es entrepreneur, parfois tu dis, oh, bon voilà, ça ce serait pas mal, ça permettrait un peu en termes de notoriété, etc. Et en fait, quand on me l'a proposé, mais j'ai eu un haut le cœur, mais hyper fort, où le mental se disait, non quand même, attends, ça peut être intéressant. Et corporellement, physiquement, j'avais les tripes complètement nouées. Et donc ça, quand même, c'est à écouter très fort.
Clairement. En fait, moi, c'est un truc que j'ai découvert suite au burn-out, c'est qu'en effet, ton corps te parle et si tu te mets à l'écouter, tu te rends compte en effet qu'il y a plein de choses où il n'y a pas besoin de réfléchir. En fait, il parle pour toi et tu vois, on en parle souvent avec les personnes que j'ai interviewées. Et en fait, je pensais à Dorothée Barthes qui racontait qu'elle avait pris un job et qu'en fait, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle le fasse, mais elle l'a quand même pris. Elle a perdu tous ses cheveux. Alia Cardin, pareil, un job où en gros, ça n'allait pas du tout. Elle a maigri d'une façon conséquente. Et finalement, ton corps te parle au moment de prendre sa décision, mais il va te le faire payer à un moment donné après. Mmh. Et autant l'écouter directement, quoi.
Bah oui. Bon, après, encore une fois, ces expériences, ça peut permettre d'aller vers la plage d'après, je dirais, cette espèce de vague comme ça qui va échouer sur la plage d'après, qui parfois peut permettre, si c'est bien payé, de se payer un coaching justement à côté pour partir. Bon, ouais. Il y a plein de...
Oui, après, moi, je fais partie de ces gens qui voient toujours du positif dans chaque situation et se dire qu'en effet, tu pourras en retirer quelque chose, mais aussi de dire que potentiellement, tu peux t'éviter aussi des souffrances et c'est chouette. Et qu'est-ce qui t'a emmené, du coup, vers la voie du chamanisme ?
C'est la voie du chamanisme qui est venue me chercher très très fort. Rien ne m'y a emmené, en fait. C'est vraiment, c'est venu me retrouver. Moi, je parle vraiment de retrouvailles avec le chamanisme très fort. En fait, c'est d'abord la voie du chemin personnel, mais il y a plein de voies d'évolution personnelle. Hein. Le yoga en est une, l'ayurveda, la respiration, le sport peut en être une autre. Le chamanisme est vraiment venu me reconnecter à une partie de moi que j'avais oubliée depuis bien longtemps, je crois. Je me suis retrouvée dans une soirée chamanique, embarquée par une copine que j'avais rencontrée dans un stage de développement personnel. On avait beaucoup la langue des signes d'ailleurs et le silence en commun. Et en fait, et dans cette soirée-là, ça a été une grande fulgurance en fait où il y avait des tambours et vraiment je me suis saisie d'un tambour de manière extrêmement virulente, fulgurante, trans. C'est-à-dire, je m'en suis saisie. Enfin, le mot est vraiment là. J'ai bondi comme une lionne. Je suis allée attraper le tambour. Je l'ai mis devant le visage. Je suis entrée en transe. La chamane me l'a arraché des mains en me disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles les esprits. J'ai fondu en larmes en disant, mais en fait, j'ai fait ça toute ma vie. En fait, enfin, ça y est, je sais qui je suis. Bref, donc c'est des... Et à l'époque, j'étais très journaliste à l'époque, justement à couvrir plein de concerts. Je vivais ma meilleure vie. Hein. Le lundi, j'étais à la Cigale, le mardi à l'Olympia, le mercredi au Zénith, le jeudi à Bercy, le vendredi au Trianon. Voilà, donc tu vois, à faire des micro-trottoirs, des interviews d'artistes, avec une vie vraiment de jeune femme parisienne, très en terrasse. Et donc, c'est vrai que déjà je faisais beaucoup de thérapie pour me requinquer. Et déjà, c'était pas rien. Mais là, d'un coup, c'était quand même un peu très fort. Ça venait chambouler un peu ma petite carte postale. Et ça m'a fait vraiment super peur. Et, sauf qu'en fait, bah, j'ai plus pu faire demi-tour parce que en permanence, c'est revenu me chercher, en fait. J'allais quand même pas très, très bien. Je me requinquais, mais ça allait quand même pas fort. J'avais vraiment des signes physiques très, très forts. Je vomissais beaucoup de sang. J'ai des angoisses énormissimes qui me demandaient d'annuler les piges journalistiques que je glanais difficilement ça ou là. Et donc, il y avait quelque chose un peu du serpent qui se mord la queue, je tente de trouver du travail qui m'angoisse absolument. Le matin, je me lève, j'ai la tête dans la cuvette pendant 6 heures d'affilée et j'émerge vaguement à 15 heures où je vais tenter de peut-être grignoter 3-4 miettes et un verre d'eau sans le recracher. Donc, c'était vraiment très difficile. La vie était difficile, le corps, la corporalité. Et puis, j'ai vraiment, sur ce chemin-là, j'ai fait des rencontres de gens qui sont vraiment venus. Je ne suis pas du tout allée dans des stages de chamanisme. Moi, ça me faisait super peur. J'ai juste été dans cette soirée-là.
Et juste, parenthèse, le chamanisme, est-ce que tu peux en donner un truc, une définition ? Je ne sais pas si...
Oui, donc le chamanisme, c'est une voie... Alors, ce qu'on dit, c'est que on peut tous pratiquer le chamanisme, hein, qui est une voie d'évolution personnelle, mais tout le monde n'est pas chaman. Donc le chaman, c'est vraiment le mot saman, ça vient de la langue tsungus, qui est une langue du nord de la Russie, du sud de la Russie, du nord de la Mongolie, pardon. Et saman, ça veut dire s'ébrouer, et c'est la transe, en fait, c'est se secouer, et c'est ce dans quoi entre le chaman quand il fait ce pont entre le ciel et la terre, entre le père ciel et la terre mère, et où il se laisse traverser par un esprit. Qui va venir le renseigner, c'est-à-dire que le chaman est au service, il met son véhicule de vie qui est son corps au service d'une incorporation, enfin voilà, d'esprits qui vont venir le renseigner sur peut-être la personne qu'il a en face de lui qui vient pour un problème de santé, pour une maison qui n'arrive pas à se vendre, pour voilà. Le chaman, en fait, il va venir rétablir de l'équilibre dans un espace où il y a du chaos ou du déséquilibre. Et donc, le chamanisme comprend, on dit que dans le chamanisme, il y a trois mondes, le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Donc, le monde d'en bas, c'est le monde du bas astral, c'est le monde du voyage, c'est le monde des animaux de pouvoir. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel nous vivons, toi et moi, dans lequel il y a de l'invisible aussi. Et le monde d'en haut, c'est le monde plutôt angélique, éthérique. Voilà. Et donc, le chaman... avec ces outils que sont le tambour peut-être, la guimbarde, les plantes pour certains, voilà, va venir voyager dans ces mondes-là, dans ces états-là, pour venir rétablir voilà, l'équilibre dans des endroits où il y a des équilibres. Et donc, le chamanisme a de cela en commun avec les constellations familiales, on en parlera peut-être, mais voilà.
Ouais, avec plaisir.
En fait, ces sujets-là, pour moi, se font très écho, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis formée à beaucoup de choses dans ma vie, mais pour moi, c'est vraiment le chamanisme et les constellations, et je les allie et je les mélange un peu ensemble. Parce que vraiment, c'est cette idée de revenir maître de l'équilibre, de revenir se remettre dans le bon sens dans sa vie, c'est-à-dire au centre de sa vie, et de ne pas être la mère de sa mère, par exemple, mais de faire des demi-tours comme ça dans l'arbre généalogique, de se remettre face à sa vie, de se remettre peut-être face à son conjoint avec une descendance en bas, enfin voilà, de recalibrer, tu vois, comme si on remettait en place un peu des meubles, de recalibrer tout ça pour qu'ensuite, énergétiquement, évidemment, bah, il se passe d'autres choses dans sa vie.
Et une petite question, quand tu vas faire l'appel aux âmes, est-ce que ça va être typiquement une âme qui a connu la personne individuellement, ou c'est finalement une âme qui est inconnue de la personne?
Alors, en Mongolie, en fait, ils ont Ils ont des tenues, en fait. Ils ont des tenues d'esprit qui viennent régulièrement les voir. Donc, par exemple, moi, j'avais fait tout un reportage, évidemment, parce que c'est le chamanisme m'a mené, le journalisme m'a mené au chamanisme. Et il y avait cette jeune chamane en banlieue d'Oulan-Bator qui était magnifique. On aurait dit Gong Li, tu sais, cette belle actrice. Et elle avait donc une espèce de portant sur lequel elle avait 8 tenues. Et elle savait que quand elle endossait ces tenues-là, c'est l'esprit d'un petit garçon de 5 ans, d'une grande cantatrice de 82 ans, qui allait la traverser et qui allait venir la renseigner, en effet, sur les personnes, les patients qui venaient la voir parce que leur fils était malade, parce que la vache ne se vendait pas, parce que voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu en Mongolie. En Mongolie, le chaman travaille beaucoup avec la vodka aussi. Moi, j'ai vraiment eu des expériences assez dingues en Mongolie où j'ai vraiment vu la chamane se vider une bouteille de vodka en 20 minutes devant moi et ensuite galoper dans la steppe alors que n'importe quelle personne serait tombée raide au bout d'un dixième de la bouteille au vu de son gabarit. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... si je me raconte que c'est de la vodka, mon corps va intégrer que c'est de la vodka. Si je me dis que c'est de l'eau, c'est de l'eau, je bois de l'eau. On l'a bien vu quand le professeur Emoto, quand il a parlé de l'information de l'eau, si je mets une tête de mort sur une bouteille d'eau et que j'arrose mes plantes avec cette bouteille-là, mes plantes vont mourir. Et si je mets joie, amour, abondance sur une autre bouteille, ça va les nourrir. Ou si je leur... on sait que l'intention joue beaucoup et compte beaucoup. Et donc, il y a plusieurs vraiment pratiques de chamanisme. Je dirais que moi, c'est avec les constellations familiales, donc c'est en allant chercher les esprits ancêtres de la personne, parfois, ou disparus, que, ils ont plein de choses à raconter, ils ont plein de choses à dire, et parfois, ils ne rêvent que d'une seule chose, c'est que nous réussissions là où ils ont échoué. Je viens vraiment rétablir des choses avec les ancêtres parce qu'on nous a beaucoup raconté que c'était lourd les ancêtres, que ils voulaient pas, qu'ils nous mettaient des bâtons dans les roues, que c'était des poids, c'était des traumas, etc. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu d'abord, avec le degré de conscience qu'ils avaient. En 50 ans, on a fait des bonds géants d'ouverture de conscience. Je veux dire, des enfants qui aujourd'hui méditent, font du yoga, la conscience dans l'assiette, dans ce que l'on mange, dans la manière de faire d'accueillir des enfants. Et en 50 ans, on est passé de pourvu que je sois pas enceinte à s'il vous plaît, faites que je sois enceinte. Donc, le rapport à la vie, le rapport à mettre au monde, le rapport à venir vivre une vie qui a du sens, tout a changé dans un temps très très court. Donc, quand même, on a beaucoup à se laisser dire aussi, et puis aussi à s'écouter soi proprement. De plus en plus, je trouve vraiment important de ramener aussi les uns et les autres au centre de leur vie. Moi, j'entends beaucoup « mes guides m'ont dit j'ai vu une médium qui m'a dit ça », etc. Oui, mais finalement, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Et fondamentalement, ouais. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que... Voilà, super, la médium, elle vous a dit ça, il s'est passé ça dans une constellation, mais vous êtes OK avec ça ou pas? Ça vous parle? C'est ça qui est...
Et une fois encore, c'est le corps qui parle. Moi, tu vois, j'ai fait une expérience qui a été assez incroyable avec une magnétiseuse qui m'a dit que j'avais une sœur jumelle qui était morte in utero. Et ça, personne ne m'en avait jamais parlé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, enfin tout ça. Et maman n'en avait absolument pas conscience. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai été vraiment parcourue d'un énorme frisson, mais dans tout mon corps. Elle, pareil, on était au mois de juillet, il faisait une chaleur de bœuf. Elle, pareil, elle avait la chair de poule. Et en fait, c'est un truc qui, quand elle me l'a dit, mais jamais de la... Enfin, elle m'a un peu préparée psychologiquement en me disant, voilà, je vais vous dire un truc, ça peut changer votre vie, machin et tout. Et clairement, ça a été une révélation. Et depuis, j'ai lu énormément de choses sur le syndrome du jumeau perdu. Et clairement, ça explique tellement de choses dans ma vie. Mmh. Et c'est un truc, tu te dis, parce que j'ai discuté avec d'autres personnes où j'avais l'intuition de me dire que c'est des personnes qui avaient le même syndrome que moi. Et il y en a une, c'était une personne que j'avais interviewée, et c'était la petite discussion hors micro de la fin. Et elle m'a dit, qu'en effet, on lui avait dit, mais qu'elle n'y croyait pas du tout. Mmh. Et c'est vrai que... En effet, notre corps, si on est vraiment à l'écoute de notre corps, ben, on en parlait tout à l'heure des synchronicités, c'est là où on se dit en fait que l'univers nous parle, que notre corps nous parle, et être à l'écoute, ça change beaucoup de choses, quoi.
Et je trouve ça super, tu vois, que cette personne dont tu parles, qui, on lui dit, vous avez un jument intra-utérin perdu, et elle n'y croit pas. Donc, il y a deux options. Peut-être que c'est totalement faux et qu'elle elle n'achète pas cette vérité-là. Donc, un, elle n'a peut-être pas accès à cette info-là et donc elle ne pleurera peut-être pas ou elle le conscientisera pas. Et peut-être que c'est exactement le cas, en fait. Peut-être qu'elle est dans sa vérité où elle dit « Ah non, ça, je n'ai pas, moi. Ça, c'est projection totale ou je n'ai pas accès à ça. Ou... » et en fait, je trouve ça très bien que tu racontes ça parce qu'en fait, c'est exactement comme ça. C'est, s'il y a une libération, une émotion qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est juste. Et que c'est juste, et puis ça peut être parce que le jumeau perdu, on entend plein de trucs. Alors, 40% des gens auraient un jumeau perdu, 70%, ce que j'adore, c'est que c'est inchiffrable, absolument, évidemment. Et en même temps, si on écoute tout le monde a un jumeau perdu et tout le monde n'a pas la réaction que tu as eue.
Ouais.
Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, et surtout, c'est intéressant, mais de regarder ensuite à quoi ça me sert dans ma vie de savoir que j'ai eu un jumeau perdu, sinon voilà. Moi, dans ma vie d'adulte aujourd'hui, peut-être que ça va me servir de regarder. Il y a des gens comme ça qui vraiment, on peut voir qu'ils s'assiedent dans une soirée, il y a toujours une place vide à côté d'eux. Ou ils vont manger pour deux. C'est intéressant d'aller regarder. Ils peuvent regarder avec encore une fois cet élément-là nouveau, cette paire de lunettes-là nouvelle, un certain nombre de choses qui se sont passées dans la vie, où genre ils achètent des choses en double.
Moi, tu vois, il y avait un truc qui était assez incroyable, c'est que toute ma vie, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un chiffre 2. Mais vraiment, c'était un truc depuis... Je suis née un 2. Le premier bisou avec mon mari, ça a été un 2. Le jour de naissance de mon fils, c'était un 2. Alors, et c'est pour le coup, c'était pas des... c'était des choses complètement inconscientes. Mais à chaque fois que ça se passait, je me disais, oh, c'est bon, il y a un 2, on est bon, quoi. Et là, récemment, j'ai découvert la numérologie stratégique avec de Lydie Cassel. Mm-hmm. Et donc, on en reparlera bientôt dans le podcast parce que j'ai le plaisir de pouvoir l'accueillir. Et donc, elle racontera toute sa méthodologie. Et en fait, elle a créé donc l'arbre stratégique qui est basé donc sur deux racines. Et ma première racine donc, qui est basée sur la date de naissance, moi, j'ai le chiffre 22 et qui est un super, super chiffre. Et je me dis, en fait, bon, c'est mon interprétation à moi chacun vit ça différemment. Mais je me suis dit, en fait, mon 22, il vient de ma première racine, il vient de ma date de naissance et donc qui a été conditionné par la grossesse de maman et compagnie. Et du coup, je me dis que c'est un peu ma sœur jumelle qui m'a envoyé un peu un super pouvoir en disant, bah voilà, t'es là pour accomplir quelque chose de grand dans le monde. Mon 22, le fait qu'il vienne de cette date de naissance et pas de mes prénoms ou autre chose, je me dis qu'il y a un truc derrière, quoi.
C'est intéressant, les dates de naissance, hein, en transgénérationnel et en psychogénéalogie, ouais. Aussi, de regarder à plus ou moins une semaine autour de sa naissance, ce qui s'est passé. Aussi, c'est très éclairant.
Et du coup, comment tu as découvert les constellations familiales ?
Eh bien, c'est venu dans tous les stages que je me formais beaucoup. Et puis, j'ai eu, comme beaucoup au début, une espèce de boulimie de stages, de découvertes où tout s'ouvrait. J'avais des sens en éveil, des perceptions plus. Ça me faisait peur, mais j'y allais. Et j'y allais. Et en fait, je pense qu'en l'espace de quelques semaines, 5 personnes ont dû me parler des constellations familiales en me disant, tu sais, en fait, je crois que tu devrais aller faire un tour par là-bas. Il y avait toujours le même nom qui revenait, qui est celui de Marie-Thérèse Balcraquin, et qui est donc cette femme qui m'a formée. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait une constellation avec elle, on était 70, donc elle fait des grands groupes comme ça. Et moi, je suis comme dans une piscine là-dedans. Je suis extrêmement... Enfin, voilà, c'est mon endroit. J'adore ça. C'est facile pour moi. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, je suis là-dedans et il se passe plein de choses. Et donc, elle me voyait plonger. Elle me disait, oh là là, attention, ne va pas trop. Voilà, j'allais très très profondément dans les émotions, dans les informations, pour aller chercher. Et elle me protégeait un peu. Elle voulait, voilà. Évidemment, il y a des sujets qui sont parfois très très difficiles, et en même temps qui sont toujours intéressants d'aller contacter, parce que dans mon arbre, comme dans le tien, on a tout au moins des naissances, je sais pas quoi, des fausses couches, des avortements, des abus, des meurtres, des. on a l'histoire et l'humanité chacune dans nos arbres. Donc évidemment. Ben voilà, il y a aucune histoire qui me fait peur, en fait. Enfin, fondamentalement, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ensuite dans les constellations, quand on est représentant, quand on va le temps d'une constellation, venir jouer le grand-père, la grand-mère, l'enfant à naître, le projet avorté, la maison qui se vend pas, la maladie. C'est quand on a un accès à l'humanité, en fait, en étant à cet endroit-là. Et donc, on peut venir voir justement qu'est-ce que ça me dit de moi, à quel endroit ça peut résonner avec ma propre histoire, qu'est-ce que j'apprends de ça, en le jouant le temps d'une heure et demie, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment très important de faire l'expérience. Je trouve ça vraiment, depuis 2 ans, on est beaucoup dans du digital, on est beaucoup dans du distanciel, etc. Et vraiment ce souci de faire l'expérience, de venir sentir dans ses cellules, dans son corps, et de vraiment libérer, de faire l'expérience de la corporation, tu vois, vraiment de comment je peux digérer vraiment une émotion, m'en libérer, ça n'est que par le corps, en fait.
Et donc là, à partir de quand tu t'es dit que tu avais envie de quitter ton job de journaliste, de voix off, pour t'orienter vraiment sur cette thématique du développement personnel ?
En fait, moi, j'ai vraiment vécu une vie en sous-marin, tu vois. C'était, il y a vraiment, j'avais la vie à la radio, les émissions, je donnais le change, entre guillemets. Et le week-end, j'étais dans des stages de chamanisme, dans des huttes de sudation, dans des week-ends de 8h du matin à minuit, à faire des constellations, à pleurer, à toucher du sensible, du subtil, du sacré. À vivre des choses profondément extraordinaires au sens premier du terme. Et donc, je revenais le lundi matin, intermittente, à la radio, et sans pouvoir vraiment partager avec grand monde, de peur.
T'en parlais d'ailleurs à ton entourage de tout ça ?
Alors, j'ai toujours, toujours maintenu ce que je vivais et toujours raconté à ma famille. Ça, je me suis dit, en fait, j'ai tout de suite senti que c'était pas du tout ce que... j'avais pas du tout grandi dans ce milieu-là. Moi, je viens d'un milieu catholique. Donc là, de commencer quand même à parler. Et en fait, de plus en plus, je voyais des ponts quand même dans la spiritualité. J'ai grandi éveillée dans la spiritualité. Donc peu importe le mot qu'on met derrière. Donc je trouvais quand même des ponts pour raconter. Tu vois, j'ai raconté beaucoup à ma mère des cercles de femmes, des stages de femmes. Et je voyais que ma mère, dans son féminin, était empêtrée. Ça avait été difficile pour elle. Et plus, évidemment, je vivais des stages avec des femmes qui avaient l'âge, parfois, de ma mère, et où j'entendais ce qu'elles disaient de leur propre fille, et où il y avait beaucoup de réparation, tu vois, de guérison qui se faisait à ce moment-là, plus ça me mettait en lien avec ma propre mère quand j'allais déjeuner week-end de Pâques, tu vois, chez eux. Donc, c'était... Ça m'a vraiment réconciliée avec un certain nombre de choses. Et je leur raconte, je leur raconte. Il y a 2-3 trucs que je n'ai pas racontés, mais le gros a été raconté. Ils m'entendent, tu vois, ils écoutent les podcasts, ils lisent un peu. Et il y a un truc, c'est l'autre jour, mon père qui dit à une de mes nièces, il dit, tu sais, ta tante, elle est un peu magicienne. Enfin, voilà, il y a toujours un truc un peu comme ça. Donc, c'est mignon. C'est totalement accueilli. Ça n'a pas été
simple. Hein. C'est respecté,
Oui, ça n'a pas été simple au début parce qu'il y avait un peu ce truc de... je me souviens, je venais avec le tambour et je saugeais la maison de mes parents, tu vois. Parce que moi, j'arrivais, j'étais là, oh là là, c'est quoi ces énergies ? Donc, je saugeais les trucs et je sentais que ça les mettait en difficulté. J'ai planté un rosier blanc pour le frère de ma mère qui est décédé, que je n'ai jamais connu, mais sur lequel j'ai beaucoup enquêté dans la famille et sur cette chape de plomb énorme. C'est une erreur médicale. Enfin, voilà, j'ai fait toute une énorme enquête. J'allais dans des archives départementales du CHU où il est mort et où en fait, il n'a pas été déclaré mort. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un truc un peu secret de famille là-dessus. C'est pour ça que j'ai découvert que c'est pour ça aussi que j'avais été journaliste. Hein. La journaliste, c'est celle qui cherche la vérité aussi dans l'arbre et dans la famille. Et le jour où j'ai planté ce rosier blanc-là, ma mère, tu vois, a hurlé au bout du jardin. Mais comme, il y a vraiment quelque chose d'énergétique où je mettais à proprement parler en terre. Il y a vraiment comme si je l'enterrais une deuxième fois parce que ce truc-là était resté un peu... et elle me hurlait, elle ne pouvait pas venir jusqu'à moi, mais elle hurlait, elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu massacres tout, tu vois là ?» Et en fait, et depuis...
Tu lui avais pas parlé de pourquoi tu le faisais?
Non, je l'ai fait très énergétiquement en disant « J'ai très envie de planter un rosier blanc, etc. » Et j'avais tenté un peu de lui parler de deux, trois choses, mais en fait, voilà, elle démarrait un peu.
Elle n'était pas prête.
Voilà. Donc, j'y vais tranquillement, j'écrirai là-dessus, mais voilà. Et en fait, et c'était tellement viscéral comme réaction. Elle ne savait pas ce que j'enterrais, mais moi, je savais très bien. Et visiblement, ses sens l'ont senti. Et en fait, depuis, à chaque floraison, elle m'envoie une photo.
Ah, c'est chouette.
Et donc, tu vois, c'est vrai, tout est dans l'invisible, tout est dans l'indicible. Et en même temps, ça se fait. Donc,
Et pourquoi alors, un rosier blanc? Il y a une symbolique particulière derrière ça?
Mais moi, c'est beaucoup ce que je conseille aux femmes et aux hommes qui viennent parfois consteller tout ce qui est avortement, perte d'enfant, fausse couche. Ce que je trouve très important, c'est de ritualiser. Justement, quand on est beaucoup dans ces espaces invisibles, chamaniques, constellations énergétiques, je trouve ça toujours important de ritualiser ensuite dans la matière, vraiment dans le tangible. Et donc, une des pistes que je trouve intéressante, c'est pour un enfant de venir planter. Et on peut même le planter avec ses autres enfants d'ailleurs, mais ça peut être une femme qui a eu une fausse couche et où les enfants ont senti qu'il y avait une tristesse. Et donc, de dire, voilà, on va aller mettre en terre, à proprement parler. Et puis en plus, c'est très beau, ça fleurit. Et puis voilà, les roses blanches, c'est l'innocence. Donc ça peut être, voilà, un bégonia blanc. Enfin voilà, mais d'essayer de... Et les enfants, ils sont très, très preneurs. Moi, je fais beaucoup de rituels avec les enfants. C'est important de leur parler de la finitude des choses, hein, de l'impermanence des choses, de leur dire qu'on vit le plus longtemps possible et qu'un jour, ça s'arrête. Et que donc, parfois, il y a des gens pour lesquels ça s'arrête très tôt. Et ça peut, vraiment de poser ces mots-là, parce qu'en fait, de toute façon, l'enfant aura senti que, et puis on le voit ensuite dans les constellations, hein, les fausses couches qui n'ont pas été nommées, les avortements qui n'ont pas été nommés, les dépressions, les pertes, quelles qu'elles soient, qui n'ont pas été nommées, l'enfant, il est, lui, très connecté encore, hein, avec le sensible, au moins jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est l'âge où la fontanelle se referme, et donc il est vraiment ses fameux amis imaginaires, il est peut-être avec, justement, des âmes qui sont un peu autour, hein, c'est très bizarre pour moi de dire ça, moi qui viens d'un monde tellement rationnel, mais je n'ai pas eu d'autre choix que de le voir. Et en constellation, on entend ça, les gens disent, quand ils se mettent à l'endroit de la petite fille qui dit moi j'ai mon ami, il y a quelqu'un qui est là, enfin bref, c'est vraiment c'est très interpellant d'entendre parler les fausses couches ou parler les êtres avortés sans aller dans le jugement là-dedans, mais d'entendre parfois le désarroi d'un petit bébé qui a été avorté, qui juste parfois a besoin que les parents lui expliquent ce qui s'est passé. T'es venu machin, c'était pas le bon moment, on n'était pas prêts, il se passait ça dans la vie. Voilà, et juste en fait qu'ils comprennent et que ça fasse descendre la charge émotionnelle de cet endroit où ça a été hop hop, on est allé à la clinique, emballé, c'est pesé, fini, et on passe à autre chose. Et c'est des charges énormes. Et pour les femmes, puisque ton podcast parle du travail aussi et du travail, je suis, et c'est important de le dire, le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui venaient me voir à 30-35 ans, un peu, voilà, changement de cap professionnel, et pour lesquelles les premières constellations, d'un coup, hop, il y avait un avortement à 17 ans ou à 20 ans qui sortait et qui était, mais en travers, qui étaient en travers de leur évolution personnelle et donc professionnelle. Et donc de venir regarder quelle est la part de soi qui a dit non à la vie, sans le juger, on ne parle pas de ça, mais vraiment qui est venu quand même à un endroit dire non à ça, c'est hyper important. C'est hyper important.
Ouais, de toute façon, tu vois, genre dans le programme que j'ai lancé, là, pour, qui est un bilan de compétences nouvelle génération, et qui, du coup, permet de trouver sa mission de vie. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de plus grand que soi. Et il y a quelqu'un qui me disait récemment, qui me disait, ah, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, tu ne fais pas de distinction entre le travail et le soi. Et en effet, tu vois, moi, je me rappelle à l'époque où je faisais passer des entretiens d'embauche, où je disais, quelles sont vos valeurs? Et une fois sur deux, on me disait, professionnel ou personnel? Et à chaque fois, je leur disais, mais... Bah, vous êtes une personne, enfin, vous n'avez pas normalement un masque de... Et les valeurs, c'est ce qui est vraiment intrinsèque en vous. Et donc, du coup, c'est quelles sont vos valeurs, en fait. Et ça, c'est un truc, finalement, où parfois, on a tendance dans notre société à se distinguer, de se dire on est une personne au travail, on est une personne à la maison, mais en fait, on est... Finalement, on est censé être la même personne, en fait.
Bien sûr, ouais, ouais. Vie pro, vie perso, il n'y a rien. Il y a une seule vie.
C'est ça. Et puis d'ailleurs, tout ce qui est le télétravail fait en sorte aussi d'estomper les barrières. Et je pense que potentiellement, tu vois, en parlant avec toi, je ne l'avais jamais verbalisé et mentalisé, c'est que finalement, dans toute cette crise existentielle de sens, c'est qu'aujourd'hui, les gens, en effet, il n'y a quasiment plus de séparation entre la vie perso et la vie pro. Et donc, du coup, tous ceux qui se sont mis un masque, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et donc, forcément, ça gratte, ça irrite. Et puis, à un moment, ça casse.
Bah oui. Ouais, parce qu'on a accès à bien d'autres choses, du coup, là. Mmh. Ouais, on voit les intérieurs des gens, tu vois, on voit comment c'est. Il y a les enfants qui passent, ça bug, voilà, on peut plus.
C'est ça.
Et oui. C'est intéressant aussi pour ça, t'as raison de le mentionner.
Et donc, du coup, comment t'as initié ton switch entre le moment donc journaliste traditionnel à t'orienter sur le journalisme de développement personnel et puis après à commencer à accompagner des personnes?
Ça s'est quand même fait de manière assez douce. Alors ce qui est drôle, c'est que je trouve ça toujours intéressant ce que la vie propose, évidemment, mais c'est je voyais bien que moi, plus je cheminais personnellement, plus on me proposait des choses en phase avec ça. Ouais. Donc d'abord, ça a commencé par la santé. Donc vraiment, j'ai eu tout un 8-10 ans où j'ai travaillé autour, vraiment journaliste santé. Voilà, donc on était quand même sur santé, guérison, tu vois, aller mieux, blessures post-traumatiques, tu vois, enfin voilà, les soldats, blessures physiques, psychiques, d'aller vers une espèce de convalescence tranquillement. Et en effet, c'est là que j'ai passé des castings pour venir bosser à Europe 1, tu vois, à la santé. Mais vraiment, c'est venu comme ça me chercher. Moi, je n'arrivais pas du tout de là, hein, mais vraiment, je pense que c'est vibratoire parce que moi, j'étais au chevet de ma petite fille blessée, échouée sur ce quai de métro, voilà, qui avait voulu en finir. Et j'étais là en mode Dr. Queen, femme médecin, à venir la soigner. Évidemment, vibratoirement, je ne pouvais plus rester dans les mêmes espaces. Ça, j'ai vraiment senti que... Il y a des moments, ça ne marche plus, en fait. Il faut que des gens sortent, il faut que des gens dégagent ou se fassent virer. Et parfois, c'est pour ça aussi que ça peut être des grandes chances de se faire virer.
Clairement.
Parce que c'est plus du tout l'espace, le bon endroit. Et donc, ça s'est quand même fait de manière assez douce. Je te dis vers la santé et puis de plus en plus ensuite vers la psychologie, développement personnel. Moi, j'avais vraiment l'idée de faire des émissions de développement personnel depuis évidemment un bon moment, puisque je baignais quand même dedans sans qu'ils le sachent vraiment. Donc j'allais régulièrement voir les directions d'antenne en leur proposant plein de choses autour de ces sujets-là, en leur disant qu'aux États-Unis, moi, j'ai un peu vécu là-bas, j'écoutais beaucoup de podcasts en anglais, de choses qui se passaient, de bouquins sur ces sujets, et que dans 10 ans ce serait partout. et la preuve en est. Et en fait, bon, c'était pas très réceptif à ce moment-là. Et puis finalement, de plus en plus, tranquillement, c'est venu jusqu'à ce que je sente que déjà c'était plus tout à fait au bon endroit, que j'avais envie d'avoir une vraie parole libre, justement, sur plein de sujets, et que le côté un peu consensuel, le côté un peu développement personnel, mais pas trop, voilà, ça m'énerve un peu. Ouais.
On y va, mais pas trop quand même.
Voilà, alors que... Et c'est intéressant parce que j'ai vraiment vu que... En tout cas, j'ai touché du doigt en radio que si je dis ce que j'expérimente, ce que je vis, je suis intouchable. Et donc, ça m'a aussi fait découler de plus en plus de la posture de journaliste parce qu'en fait, à des moments, je ne sais plus, je chroniquais des livres et en fait, je me faisais pas mal attaquer parce que j'avais parlé de certains livres. Mais en fait, moi, je me disais, je m'en fous, c'est pas moi qui l'ai écrit, ce livre-là. je suis juste en train de dire, ça existe. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et en fait, j'ai comme ça deux, trois salves un peu de « attention, qu'est-ce que tu dis ?» Le corps, l'esprit, tout ça. Et le simple fait ensuite de basculer en me disant « en fait, mais moi, je vis plein de choses dans ma vie. J'expérimente à proprement parler plein de choses, je vais les raconter. » Et donc là, je serai inattaquable parce que c'est juste, je vais vous raconter ce week-end où j'étais. J'ai fait l'expérience d'un stage de je ne sais pas quoi. J'ai fait l'expérience d'un cercle de femmes. J'ai fait l'expérience de trucs. Voilà comment ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est que je propose, vous disposez. Enfin, voilà. Et donc, c'est vraiment venu me décoller et me réapproprier aussi ma voix. Et, sauf qu'à ce moment-là, la voix, elle devient de plus en plus personnelle. Et en tant que journaliste, ça passe moins. Et évidemment, j'ai vu que Pujadas avait commencé à parler un peu pour lui en son nom propre, là, dans les histoires de pandémie, en disant « mais est-ce que les médias n'en font pas trop ?» Je me suis dit « ouh, attention !» Attention, parce que voilà, c'est toujours intéressant. Donc voilà, de sortir un peu de la meute de chien, justement, et de vouloir vraiment pouvoir dire. Et donc, je voyais bien que de temps en temps, j'étais coincée et que je voulais poser certaines questions ou parler de choses ou au contraire moi apporter un peu d'eau au moulin et que j'étais coincée donc je dirais que d'un commun accord tout s'est arrêté et que finalement c'était évidemment la meilleure chose qui pouvait arriver.
Et donc là quand tu as arrêté donc le journalisme traditionnel en parallèle tu avais commencé à être coach?
Pas du tout
non, d'accord.
Ça a été le grand saut
dans
l'inconnu, c'est-à-dire que moi c'est le 24 août ils m'ont dit en fait tu n'es pas sur la grille de rentrée.
Donc là on était en 2000
il y a 4 ans 3 ans 4,
d'accord
4 ans donc ça c'est toujours cette grande violence des médias parce que quand même il faut le dire et là vraiment mon grand-père venait décéder à ce moment-là et là je me suis dit ok, donc là je venais d'emménager dans un nouvel appartement et je me suis dit nouvel appartement, nouveau moi, nouveau tout et donc plus radio et donc en fait je voyais bien que j'avais été au bout du bout de je peux pas faire plus que ça en fait là le reste ce sera YouTube, ce sera des podcasts, ce sera des bouquins, ce sera des stages, ce sera d'autres espaces où ma parole peut être tranquille. Mais là, dans les médias traditionnels, dans l'autoroute du mainstream, entre guillemets, que j'avais prise 20 ans plus tôt, je pouvais plus, il n'y avait plus d'endroit. Ouais. Donc, donc là, ça a été... c'est marrant parce que mon grand-père, il était vétérinaire et c'était vraiment le guérisseur un peu de la famille. Et donc, c'est au moment où il est mort, où vraiment, tu vois, il y a eu comme une espèce de « vas-y maintenant, en fait, c'est bon là. »
C'est à ton tour.
T'es capé, t'es formé, plus que formé, vas-y. Et donc, je me suis lancée en me disant « allez, c'est parti, je vais faire des ateliers, des choses. » Donc, au début... tu commences, c'est un peu nouveau. J'invitais des amis, je faisais des cadeaux. Et puis, c'est vrai que très vite, il s'est passé plein de choses. Et puis, de plus en plus, moi, j'ai continué à me former d'autant plus encore en chamanisme parce que c'est vraiment ça qui venait très fort de plus en plus. Et donc, de travailler avec l'invisible. Donc, ça, c'était encore, je pense que mes anciens collègues en journalisme, ils doivent peut-être, je ne sais pas s'ils regardent ce que je fais, mais on l'a perdu pour la cause. Mais, et en même temps, je n'ai pas d'autre choix de faire ce que je fais. C'est comme la peinture, tu vois, quand je peins, je dis je peins ce que je peux, pas ce que je veux. C'est exactement pareil avec ce que je propose. Tu vois, il y a des trucs... ce serait pas moi de faire certaines choses. Donc, moi, j'adore les retraites. J'adore ces espaces vraiment de guérison, de rituel, de très artistique aussi, très créatif, un peu en retrait du monde, dans lesquels on a le temps long. C'est pas juste des séances comme ça. Et où, justement, pour des gens qui sont beaucoup dans le mental, ils peuvent... Tu vois, le premier soir du stage, ils peuvent un peu tenir. Bon, le lendemain matin, ils ont fait des cauchemars, mais machin. Et puis, à un moment donné, ils sont obligés de lâcher. Et c'est très beau de voir des êtres s'en remettre à une guérison, à bien plus grand qu'eux, et à poursuivre ce chemin d'évolution et à pas rester enfermé, en tenaille comme ça dans une vie qui est trop petite pour eux aujourd'hui.
Et dans les choses créatives que tu as faites, le lendemain des attentats du Bataclan, tu as fait quelque chose de très poétique.
Oui, j'aime beaucoup. Alors, moi, je fais ce que je nomme le sweet art. Donc, c'est du street art, mais sweet. Et donc, je suis une sweet artiste. J'aime bien ce mot-là que j'ai inventé. Et en fait, l'idée, c'est de la poésie urbaine qui ne pollue pas. Et qui donc est toujours au service d'un message positif et de guérison aussi. C'est vraiment, j'aime beaucoup les mouvements anglo-saxons de street healing collective, donc de manifestes de rue comme ça qui viennent vraiment guérir les gens. Et en fait, donc je jouais depuis longtemps avec les bouches d'aération du métro qui déjà me remettaient un peu, m'avaient remise un peu sur... sur le bitume, hein, au niveau zéro, je dirais, puisque j'étais remontée de mon quai de métro, voilà, j'étais remontée à la surface grâce à toutes ces thérapies, tous ces stages et tous ces accompagnements dispensés par des femmes formidables qui étaient sur ma route. Et en fait, j'adorais depuis un petit moment toutes ces bouches d'aération, ces grilles, ces poumons dans la ville un peu qui soulèvent les jupes des filles qui font pas gaffe, qui réchauffent les sans-abri. Et je sentais bien que ce truc-là, ça soufflait tout le temps, qu'en fait, ça demandait pas d'énergie, quoi. Il y avait pas de... Quand je vois la nuit blanche à Paris et les artistes qui choisissent où il y a toujours des gros générateurs qui polluent plus et que c'est des artistes qui ont des subventions de 50 000 euros, ça me rend dingue parce que là, en fait, on a des trucs qui soufflent et qu'on peut... Voilà, j'aime bien l'idée de l'artistique quand il n'y a pas un truc énorme à mettre en place, quoi. C'est de faire avec ce qui est là. Je trouve ça très beau, tout est là. Et donc en fait, j'ai trouvé des confettis entièrement biodégradables à la première pluie. Et donc je me suis mise à distiller des petits cœurs en fait pour faire une espèce de pluie d'amour un peu au-dessus de ces bouches d'aération. Et en fait, ces grands courants chauds qui montent très haut font comme des espèces de grands champignons presque atomiques. Ce qui fait que quand je faisais ces happenings, voilà, on retrouvait des confettis à 5 ou 6 stations de métro de là, par exemple, ou sur les toits. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de la performance artistique où je transforme un trauma qui m'est propre en création. J'en fais quelque chose de beau et ensuite, ça retombe et les gens se réapproprient ce travail-là. Et donc, c'est vrai que dans tout ce que j'ai fait, que ce soit les textopolitains qui étaient des petits mots que je donnais dans le métro, qui fait partie aussi du sweet art, un autre projet qui s'appelle Je suis un trésor, où j'avais écrit comme ça sur tous les miroirs de Paris, dans les bars, dans les restaurants, avec une espèce de stylo rouge à lèvres, des messages positifs sur les miroirs pour le... Justement, c'était très body positive pour les femmes et les gens qui se regardaient dans les miroirs aux toilettes, particulièrement avec des phrases comme « ça n'est pas parce qu'elle est belle que je ne le suis pas ». Voilà, des choses un peu de réassurance, de confiance en soi. Donc, le Flying Project au moment des attentats. Et donc, en fait, pendant 2 ans ensuite, j'ai multiplié ces espaces-là de guérison. Le jour de la journée mondiale de la paix, avec des choses contre le cancer du sein, des choses pour les enfants. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose un peu de l'ordre de la cérémonie chamanique du bitume, un peu. Et c'est beau parce qu'en fait, il y a l'UNESCO qui a classé cette œuvre-là comme œuvre pour la paix. Donc, le flag.
Ah, génial.
L'œuvre pour la paix à l'UNESCO. Et moi, je suis artiste pour la paix. Donc, je suis très heureuse de ça parce que ça avait vraiment été. Moi, ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Je le fais d'abord pour moi, hein. C'est toujours comme ça. Une démarche artistique, elle est d'abord toujours personnelle. Et je trouve magnifique que les gens viennent et s'agglutinent. Et je commençais toute seule et on terminait. On était plusieurs centaines. Il y avait des petites grand-mères qui descendaient des immeubles en disant je vous observe depuis là-bas. Je me suis dit que j'allais venir voir quand même parce que ça.
Sachant que c'était des confettis en forme de cœur, si bien.
En forme de papillon, il y a eu en forme d'étoiles, j'ai fait des pluies d'étoiles, j'ai fait des libérations de papillons, donc avec des choses vraiment du rituel, mais du rituel au milieu des bus en warning et des flics et des jeunes en skate et du type qui se fait taper son téléphone à côté, de la vie en fait.
Ah, de la vraie vie.
Ouais. Là, de quelque chose de très ancré en fait, que exactement ce que tu disais, il n'y a pas, j'aime bien les retraites évidemment, mais il n'y a pas la vie spirituelle, personnelle, psychologique, thérapeutique d'un côté, et puis le jambave au boulot, à la maison, tout ceci est un grand tout avec des vases communicants et des espaces qui se nourrissent les uns les autres.
Ouais. Et il y a une initiative qui a été très, très remarquée, médiatisée et qui a fait énormément de personnes, de bien aux personnes. C'est le compte Instagram que tu as lancé à l'occasion du premier confinement.
Oui, c'est Merci à un inconnu. Alors toujours pour boucler cette boucle justement, parce que voilà, maintenant je suis plus du tout sur ce quai de métro. J'ai même plus besoin vraiment de, tu vois, de le raconter. Mais enfin voilà, c'est une toute autre personne. Enfin tu vois, vraiment je me sens presque détachée de cette histoire-là. Donc c'est génial, c'est une très bonne nouvelle.
Ouais, on est d'accord.
C'est une très bonne nouvelle. Et c'est aussi justement pour ça que ça peut devenir très très collectif en fait, très pluriel. Oui, que ça puisse toucher d'autres personnes. J'ai vraiment touché ça du doigt, d'ailleurs, que sur des projets personnels que je lançais, quand moi, j'étais pas encore assez réparée, entre guillemets, et ben ça touchait pas assez le monde parce que j'étais encore dans mes blessures, j'étais encore à tourner en boucle sur certaines choses et qu'en fait, plus évidemment, la distance se fait, plus ça ne parle plus de moi, plus évidemment, le monde peut s'en saisir. Et donc, en fait, c'est un compte Instagram sur lequel tout le monde est invité à venir remercier celles et ceux auxquels ils doivent une fière chandelle. Alors, ça peut être cette personne qui vous a pris en stop sous des trombes d'eau, ce monsieur qui a complété à la caisse voilà, les quelques centimes qui vous manquaient pour payer votre baguette, cette dame qui est venue vous faire un compliment sur la magnifique robe que vous portez aujourd'hui alors que vous sentez en retour de couche avec un peu trop. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des petites phrases, des gestes. Et donc pendant tout un premier temps, c'est moi qui réécrivais les histoires et là depuis quelques semaines maintenant, un petit mois, j'ai décidé vraiment de laisser pleinement les gens raconter de la manière dont ils le souhaitent pour vraiment d'abord dans un premier temps moi lâcher totalement la journaliste, arrêter d'enjoliver le monde et vraiment de rester dans le plus authentique Et pourtant, Dieu sait si moi je me disais, oh là là, il va y avoir des fautes d'orthographe, ça va être, il y aura des trucs en langage texto, ça va être horrible, alors que moi j'aimais bien les choses jolies. Alors, c'était hyper intéressant parce que ça m'a fait traverser plein de choses. Et en fait, je trouve, mais encore plus beau.
C'est la vraie vie.
La vraie vie. Les messages des gens sont magnifiques. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, mais nous on aimait bien quand c'était mis en page, réécrit, etc. Et en fait, j'adore l'idée de la vraie vie, c'est que la personne parle de la boutique de son village et qu'elle nomme le village et qu'elle ait deux, trois réflexions, des détails que moi j'aurais omis ou effacés dans la réécriture des histoires. Donc, je trouve, c'est comme les gens quand ils étaient avec le Flying Project et qu'ils jouaient avec les confettis ensuite, ça ne m'appartient plus. Moi, ouais. Là, je propose un espace où il y a, et je sélectionne les histoires pour essayer que ce soit un peu varié et différent. Et puis surtout, de plus en plus, là, j'invite les gens à venir faire justement, à passer à l'action et donc à distiller des petits mots dans les transports en commun, à en glisser dans les boîtes aux lettres, sous les pare-brises, sous les essuie-glaces. Il y a plein de maîtresses d'école, d'assistantes maternelles qui me racontent qu'elles ont fait des dessins, qu'elles sont allées donner dans des EHPAD, des petits mots. Dès que quelqu'un prend un TGV ou un TER, on glisse des petits mots partout. Donc, moi, j'aime bien cette idée comme ça qu'on soit une armée de bisounours un peu à venir œuvrer plutôt que de se demander qui a pris sa dose ou qui est masqué, qui a son masque sur le bout du nez ou pas. Je trouve ça quand même plus intéressant.
C'est amusant, c'est un petit clin d'œil de la vie. Là, on enregistre le 13 janvier et cette semaine, c'était la journée mondiale du merci.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est, alors, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des choses. Et en même temps, c'est marrant, au début, moi, j'étais un peu passée à côté de ça. Mais en fait, je me dis, mais parce qu'en fait, moi, c'est tous les jours la journée du merci. En fait, c'est très heureux et joyeux de vivre, de recevoir que ça. C'est-à-dire, c'est la plus belle communauté, la communauté de Merci à un inconnu. Il y a 233 000 personnes, mais c'est que des gens. Moi, je ne reçois que des messages avec des belles histoires. Je ne sais pas ce que c'est qu'un haters. C'est vraiment l'endroit de la positive attitude plus, de choisir de regarder le verre à moitié plein. Et donc, c'est très plaisant, évidemment.
Et tu publies du coup 100% des messages ?
Alors, j'ai une vie quand même à côté, c'était aussi un peu ça quand même. Et je suis sur beaucoup de projets d'écriture en ce moment aussi. Et puis peut-être de podcasts d'histoires justement positives, avant de s'endormir le soir, des choses, on va voir. Donc l'idée, c'est justement, alors quand il y a, de temps en temps, quand il y a vraiment trop de fautes d'orthographe, je dis, est-ce que vous voulez bien juste vous relire et voilà, et puis le remettre un peu en forme. Je fais gaffe après sur, alors j'essaye d'enlever un peu mon filtre, mais parfois il y a vraiment, les gens parlent comme ils parlent dans la vie, donc parfois ils peuvent dire, je sais que si quelqu'un dit, je veux remercier le Black qui m'a aidé, ben voilà, ça je sais qu'il va y avoir 200 000 commentaires, et en même temps, ben, c'est ce que la personne écrit. Donc à quel endroit, moi je me place en pare-feu. En même temps, comme je suis responsable entre guillemets du compte, bah, je suis un peu quand même responsable de tout ça. Donc, je fais un peu gaffe quand même, voilà, à ce qu'il n'y ait pas d'incitation à la violence. Je dégage un peu, j'ai décidé maintenant de dégager les nuisibles parce que voilà, c'est comme un vigile à l'entrée d'une boîte de nuit. Je ne fais rentrer que les gens qui sont dans un bon esprit, dans un bon esprit et qui viennent là pour, pas pour chercher la petite bête, parce que évidemment, là, comme c'est plus moi qui réécris, et ben les gens se lâchent encore plus entre eux. Donc, c'est. Mais j'essaye de mais j'en reçois beaucoup trop, enfin beaucoup trop, non, et jamais assez, mais
ouais, ça devient ça prend beaucoup de temps
par jour. Oui, il faudrait que j'en poste 10 par jour au moins, mais je sais pas, je dois recevoir une soixantaine de messages par jour,
et ouais, c'est énorme.
Et j'ai sur un tableau Excel, j'ai 8000 histoires. Donc, tu vois, c'est voilà. Mais, donc, je réfléchis à plein de choses. J'aimerais beaucoup lancer des ateliers aussi pour qu'on travaille un peu ça. Donc, je voudrais monter des choses un peu en.
T'as sorti un livre aussi, du coup, récemment.
Oui, merci, un inconnu. Soyons tous des héros du quotidien. Donc, avec en effet des. Voilà, les histoires vraiment hyper fortes, et puis tout plein d'inédits. Et puis dedans, j'y mets aussi toutes mes histoires un peu plus longues, justement, qui sont des petites histoires du quotidien. Moi, j'aime vraiment cette philosophie du quotidien. On n'est pas obligé d'aller dans des ashrams au Tibet pour vraiment se laisser enseigner par la vie.
Ouais. Comment t'écoutes ton intuition ?
Alors, je l'écoute vraiment corporellement, ça c'est sûr. Très corporellement, moi, j'ai des sifflements dans les oreilles. J'ai vraiment des signes en fait très forts, donc je fais des lapsus auditifs, des lapsus verbaux, des lapsus de lecture aussi, donc je lis autre chose et je me dis, ah tiens, ça fait quand même 3 fois que je lis des choses un peu autour de ça. Ouais, c'est vraiment mon corps qui me parle, c'est vraiment un sifflement très fort sur quelque chose qui a été répété 2-3 fois à côté de moi. Je me dis, alors c'est quoi ? Il faut que j'écoute ce que la personne dise, au contraire que j'intervienne, que je me mets, voilà, que je m'oppose, ou qu'est-ce qui, voilà, c'est comme si on me sifflait vraiment. C'est d'ailleurs un peu ça. Ouais.
Et ça, c'est une petite question que j'avais posée à Sarah, et qui. Est-ce que tu penses que pour pouvoir justement communiquer avec les âmes et être clairvoyant ou clairaudient, il faut entre guillemets, tu as vécu une mort imminente à un moment donné dans ta vie qui fait que du coup tu as été connecté avec l'au-delà entre guillemets.
Je pense que en fait cette histoire de quai de métro, le simple fait de voir la mort en face, donc tu vois, c'est connecté à une mort imminente, c'est pour moi c'est voir la mort en face. Voir la mort en face, je peux l'avoir vue quand un jour mes parents se sont tapés dessus tellement fort que j'ai eu l'impression qu'ils me tapaient. C'est ce qui arrive aux enfants victimes de violences familiales, tu vois. Mais sans forcément être tapés, ils assistent à une telle décharge de violence qu'ils ont l'impression que c'est eux qui ont reçu les coups. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être moi ce que j'appelle les gros traumas, tu vois, en constellation, les gros traumas, c'est la naissance. C'est pour ça qu'on l'a tous oublié. Donc, je peux être extrêmement polytraumatisée par une naissance et ne pas en avoir conscience. Une rupture, un licenciement d'une grande violence peut être extrêmement traumatisant. Donc, c'est vraiment voir la mort en face, le traumatisme. Donc, sans forcément avoir été dans le tunnel de la mort, du truc, de machin, j'ai entendu les musiques angéliques, etc. De venir voir et toucher la préciosité de, vraiment la rareté de la vie, et me faire choisir le « alors ». Stop ou encore, ou alors tu sautes ou tu restes. Alors vraiment, si tu restes, en revanche, tu fais vraiment de quoi ? Ce gros déclic-là, tu vois, peut ouvre. Moi, vraiment, ça a été le... Si je choisis de rester là, je ne peux pas rester en l'état. Donc, il faut vraiment que je choisisse de bouger vraiment très sérieusement. Et je vois quand même qu'une grosse épreuve est souvent quelque chose qui était déjà là, latent un peu tranquillement, qui était en pente douce, et qu'à un moment donné, voilà, ne peut plus se permettre d'être occulté, d'être à regarder très en face.
Ouais. Mm. Comment tu célèbres tes réussites ?
Alors, je célèbre mes réussites. J'aime beaucoup les célébrer avec mes proches, avec des amis. J'ai voilà, notamment des bonnes amies comme Sarah, comme voilà, des amis un peu qui sont dans mes métiers, où on a des brunchs de femmes puissantes. Moi, j'aime bien rassembler comme ça un peu des femmes voilà, avec un peu de champagne et puis de célébrer ça. J'aime bien me faire des beaux cadeaux aussi. Je me suis offert un magnifique manteau récemment, tu vois, de couleur flamboyante, fuchsia. Il est sublime et je me suis dit que voilà, je méritais ce beau manteau. Et puis, j'aime bien aussi m'offrir un beau massage. C'est quelque chose vraiment pour le corps aussi. De plus en plus, je fais ça.
Super. À quel moment dans ta vie, tu t'es dit « pourquoi pas moi ?»
Eh bien, pourquoi pas moi à choisir de pleinement vivre ma vie. Je crois vraiment que... quand j'ai vu, c'est marrant parce que ça tape vraiment très fort au-dessus, comme si quelqu'un vraiment, tu sais, j'écoute toujours les signes, et c'est comme si ça toquait un peu au mur. Je me suis dit pourquoi pas moi artiste. Quand j'ai touché pour la première fois un pinceau à 32 ans et que 3 ans après j'exposais par exemple et que je vendais des toiles. Et là vraiment c'est pourquoi pas moi. Autrice, mais vraiment qui publie des livres tous les ans, tu vois, vraiment ça c'est quelque chose que c'est décidé en fait, c'est vraiment décidé. Et c'est marrant, c'est des choses que j'ai longtemps senties inaccessibles pendant longtemps. Et en fait là, c'est vraiment, il y a pas d'autre endroit.
C'est des évidences.
Oui. Et en fait, c'est presque facile. Et donc je vois bien que ça me semblait difficile parce que j'étais très loin, parce que j'étais au dernier rang, parce que je me voyais au dernier rang. Et en fait, là, c'est vraiment là, c'est présent, il n'y a qu'à se servir presque, tu vois. C'est vraiment le plateau, le buffet est là, il y a juste à tendre la main. Et je remarque vraiment, j'observe qu'en effet, les fois où je me suis dit « pas moi », c'est parce que j'étais trop loin.
Et si mes renseignements sont bons, le seul livre que tu aies publié, c'était « Merci à un inconnu ». Et ce qui est un petit clin d'œil, c'est que finalement, c'est encore une fois une côté un peu interprétation d'être…
Exactement. Et je suis convaincue que c'est… et que c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que l'enseignement pour moi, c'est que c'était le dernier livre où je racontais autre chose que mes propres histoires et que ma propre voix. Et que vraiment, définitivement, c'est ce qui m'est demandé. Enfin, c'est, moi, j'ai compris la leçon et que ce qui m'est demandé, c'est de vraiment d'aller raconter tout ce que j'ai vécu et tout ce que, mais vraiment de parler au jeu, en fait.
C'est quoi pour toi la réussite ?
La réussite, c'est vraiment arriver dans ces temps mouvementés, à danser sous la pluie, à se réjouir de plein de choses qui se passent en marge de ça, de pas se laisser phagocyter, entraîner par le bas. Je mesure combien tout ce travail thérapeutique, ce cheminement fait qu'aujourd'hui, un confinement, deux confinements, trois confinements, etc., je reste debout en fait. Je me sens solide. Et pour moi, ça, c'est une grande réussite. C'est une grande réussite de pas, je sais pas, avoir sombré dans l'alcool, tu vois, de déprimer. J'honore, tu vois, ma part de courage de me voir, voilà, lancer, animer des trucs, avoir animé des retraites en plein confinement. Enfin, tu vois, d'être là en soutien aussi. Je suis pas en première ligne, mais je me sens quand même pas loin, quand même. Toutes les personnes qui travaillent autour de la santé mentale, santé psychique, de l'accompagnement des personnes, elles sont quand même mises à rude épreuve aussi. Elles entendent toute la journée des gens qui vont pas bien. J'observe que j'ai besoin d'aller puiser très profondément dans mes racines de la solidité et je suis heureuse de la trouver.
Et une question que se posera forcément les auditeurs, donc tu as quitté ton statut d'intermittente du spectacle et de journaliste, est-ce que tu as pu rapidement revenir au même niveau de vie financière qu'avant ?
Ouais, c'est important de poser ces questions-là, tu as tout à fait raison. Ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est marrant, j'ai fermé mon auto-entreprise et là j'ouvre une IRL, tu vois, donc c'est... Yay. Après 2 ans de Covid, en lançant ces activités où moi je fais beaucoup de présentiel parce que j'aime beaucoup ça, on n'est pas beaucoup à faire beaucoup de présentiel. Tout le monde a beaucoup basculé dans du programme en ligne, donc je souligne ça aussi. Et en fait, je vois comment l'intermittence, il y avait encore une part de moi qui allait chercher à l'État et donc à papa. Hein, à la verticalité, un soutien. Et tu vois, il y avait vraiment ce truc de un peu de oui mais non. Et je vois bien que l'entrepreneur, c'est celui, on dit, hein, qui vraiment fait le lien entre la terre-mère et le père-ciel dans son ventre et qui vient d'abord, évidemment, accueillir les parents suffisamment bons à l'intérieur de lui, c'est-à-dire son père intérieur, sa mère intérieure, et comment je peux être une bonne mère pour mon entreprise et comment je peux être un bon père pour mon entreprise en posant du cadre. La mère, c'est un peu plus la mère nourricière, donc comment est-ce que, justement, je peux m'offrir un massage de temps en temps pour célébrer que ma retraite est complète 3 mois avant, enfin voilà. Donc de vraiment venir accueillir ces sous-parties-là de soi, parce que l'entrepreneuriat va venir me remettre dans cette phase de petit enfant, de grand débutant. Et donc, c'est pour ça, évidemment, que l'accompagnement est essentiel dans ces phases-là. Et surtout, de basculer, pour moi, ça a été vraiment de lâcher la rive. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être dans une piscine où je lâchais la rive et où, ça y est, je ne pouvais plus compter que sur moi-même et plus du tout sur les assédics, je ne sais pas quoi, les indemnités. Et je vois bien quand même... à quel endroit je gagne en confiance. Le statut d'intermittent, de toute façon, est voué et amené à disparaître. Ils essayent de le torpiller depuis tout un temps, mais un jour, ça arrivera. Et je vois bien, en fait, que pendant des années, j'étais extrêmement stressée par ce statut-là. Et qu'en fait, aujourd'hui, je gagne en sécurité, vraiment, que c'était pas si confortable que ça du tout d'être intermittent. Malgré le fait que il y avait ces indemnités. Et je dirais, alors ce qu'on dit, c'est qu'une entreprise, elle est viable au bout de 3 ans. J'ai grandement tapé dans mes réserves, évidemment, au début, hein, parce que d'organiser des ateliers où il y a 2 payants, 3 invités, 2 amis qui viennent faire un... Voilà. Et puis, moi, les gens, ils me connaissaient journaliste, ils me connaissaient pas, ils savaient pas du tout, justement, tout ce que j'avais eu pendant 20 ans et tout ce à quoi je m'étais formée. Donc, d'abord, il fallait quand même un peu imaginer ça. C'est marrant, j'avais vu un astrologue. Alors, moi, je suis pas très astro et compagnie, même numérologie, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais j'en avais juste vu un comme ça à ce moment-là. Il m'avait dit, vous allez voir, ça va descendre, vous allez vraiment frôler le sol. Et après, ça remonte. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une refonte jusque vraiment dans les moindres détails de tout ce que vous êtes, de tout votre système. Donc, vous inquiétez pas, la vie va être là et pour voir pour vous. Et c'est effectivement ce qui se passe quand même. Moi, j'aime bien cette idée, cette image du si je fais un pas devant, hop, d'un coup, il y a une brique qui va venir se poser sous le pas. Et c'est exactement ça qui se passe. Je dirais quand même que dans tout le, en tant que journaliste, je crois qu'il y a quand même beaucoup à perdre que d'être intermittent. J'invite vraiment les gens qui nous écoutent, qui sont intermittents, de regarder vraiment très en face le manque à gagner, parfois aussi. Moi, je voyais bien quand même que plein de fois, il fallait que je sois déclarée, etc. Et du coup, les sociétés de portage, il ne me restait plus rien. Enfin, que finalement, si j'avais déjà facturé à l'époque, ça m'aurait peut-être ouvert bien d'autres portes. Bon, je ne peux pas réécrire l'histoire, mais je...
Après, il faut que ça soit un truc conscient. D'ailleurs, tu vois, on en a parlé avec Thibaut Cheminant que c'est l'épisode qui a été diffusé la semaine dernière. Donc Thibaut le fait, il a choisi d'être intermittent, de rester intermittent, ce qui lui a permis du coup de pouvoir monter son activité à côté de guide de safari. Et s'il n'avait pas eu ce statut, ça ne lui aurait pas permis de le faire. Mais je pense qu'il y a une vraie notion de se dire je pose un choix, je réfléchis à ce choix, et si je le fais, c'est pourquoi, plutôt que de le subir et potentiellement
Et ça n'est valable que pour les intermittents qui sont installés dans des rédactions ou dans des compagnies de théâtre, etc., et qui sont sûrs d'avoir du travail sur le long terme, hein, sur une saison au moins. Hein, c'est des gens qui cachetonnent à droite à gauche, ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est... Mais en tout cas, si je peux mettre une petite phrase comme ça, c'est vraiment de regarder très en face la partie de soi qui a besoin de rester accrochée au rivage et qui peut-être que cette zone de confort est très inconfortable.
Ouais, et puis même ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'en fait, parfois on a peur de lâcher le rivage parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on a envie d'aller, on ne sait pas où est-ce qu'elle est notre étoile polaire. Mmh. Et du coup, c'est forcément plus difficile de lâcher quand on ne sait pas vers quoi on est porté. Mmh. Tu vois, moi je vois quand j'ai quitté ma boîte suite à mon burn-out, j'étais terrorisée parce qu'en fait, je ne savais pas où était ma place. Et du coup, à partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais quelle est ta mission de vie et compagnie, t'as cette fameuse étoile polaire, en fait, ça te permet de dire « Ok, j'ai pas de brassard, mais j'y vais. » Et en fait, parce que je sais que ce qui m'attend, c'est plus grand que moi, j'ai un cap, j'ai un but. Et du coup, ça permet en effet de lâcher plus simplement le rivage.
Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée de toute façon dans ce lancement-là, c'est quand même de me faire… Heureusement que je me suis fait accompagner à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il fallait faire le deuil de plein de choses. C'est hyper important de faire les deuils aussi. Là, on parle de coaching de transition, de changement de vie. C'est hyper important de prendre d'abord tout un premier grand temps pour dire merci, dire au revoir, venir re-regarder les cadeaux d'une expérience professionnelle, les savonnettes, les planches pourries, de vraiment partir en ayant fait bien le tour du propriétaire de ce qui a été, pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est vrai que pour éviter justement de retomber dans les mêmes travers. Et c'est là que les constellations professionnelles sont intéressantes, parce qu'en fait, en constellation, on peut aussi aller voir justement qu'est-ce que j'ai rejoué de ma famille de naissance dans ma famille de l'entreprise, hein, justement, puisqu'on a, c'est ce qu'on disait, on n'a qu'une seule et même vie. Et donc, pour éviter de retomber sur la prof, la boss tarée ou les collègues un peu envieux et qui mettent des bâtons dans les roues, et ben voilà, est-ce que je peux aller regarder peut-être, tiens, qu'est-ce que j'ai déjà joué dans ma famille de naissance avec des frères et sœurs qui me mettaient des bâtons dans les roues et peut-être une mère un peu difficile. Enfin voilà. Donc c'est...
Ouais, c'est hyper intéressant de se dire, regarder quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois et où tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive encore ? Et enfin, tu vois, moi, je pense par exemple à un truc, c'est que j'ai bossé pendant 15 ans dans des boîtes successful et compagnie. Et deux jobs à la suite, on m'a dit que j'aurais des parts de la boîte. Et deux jobs à la suite, on me l'a fait, mais à l'envers, d'une façon très, très puissante. Et il y a un moment, tu te dis, pourquoi ça m'est arrivé et compagnie ? Et te dire, bah, finalement... Alors, j'ai pas forcément trouvé toutes les réponses et aujourd'hui, j'ai fait le deuil de ce truc-là en me disant, bah, de toute façon, maintenant, c'est ma boîte et comme ça, au moins, il n'y a même plus de questions qui se posent. Mais se dire, en effet, c'est quand même fou parce que quand je regarde toutes les personnes dans mon entourage qui ont fait partie de belles boîtes et compagnie, pourquoi deux fois de suite, on me le fait à l'envers et qu'en plus, ça t'est arrivé une fois. Mmh. Donc, tu dis à ton boss, attends, on me l'a déjà fait une fois, je te préviens, on va pas me faire une deuxième fois.
Ce qui est intéressant, c'est que deux fois, c'est un pattern. Et deux fois, c'est quelque chose, donc c'est scénarique. Quelque chose qui se répète. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui fait que plus jeune peut-être, on m'a promis un truc qui n'est jamais venu.
C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Anne de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Elle me dirait « Prends des vacances ». Non, elle me dirait « Dis donc, quand est-ce que tu écris les histoires pour enfants ?» Elle me dirait, dis donc, quand est-ce que tu écris tes histoires à toi ? Quand est-ce que tu dessinais que tu écris tes histoires à toi ? Là, c'est bien gentil, mais bon.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi ?
Alors là, moi, se pose un peu la question de la maternité en ce moment. Donc, je ne suis pas dans un renoncement, mais je voudrais être tranquille et sûre de mon choix, quel qu'il soit. Donc, je suis un peu là-dedans.
Parce que tu as quel âge aujourd'hui ?
42 ans. C'est une question qui ne s'était pas posée avant, parce que je n'étais pas installée, etc. Et j'ai vraiment très envie que ce soit un choix très assumé. Et voilà. Et en fait, je vois bien que en ayant travaillé sur des certains pans de mon histoire, je vois bien que ce sujet vient et qu'en fait, avant, je ne pouvais pas y avoir accès. Donc pendant très longtemps, je me suis raconté que je laissais faire la vie, ce qui n'est pas une réponse. Et en fait, là, en ayant guéri vraiment beaucoup de parts, je vois je vois que si je choisis de le faire, je le fais en conscience et non pas de manière inconsciente. Donc ouais. Voilà, donc c'est d'ailleurs, on ne fait pas un enfant, on accueille un enfant, mais voilà, c'est vraiment je suis dans ces questionnements-là, tu vois, un peu de ça. Renoncer. Non, parce que tu vois, la part artistique, il y a une part de moi qui aurait rêvé de faire les beaux-arts, tu vois, vraiment, quelque chose comme ça. Et en fait, ma part créative et artistique est quand même très nourrie. Tu vois, je sculpte beaucoup, je suis en formation en sculpture, j'ai une pièce chez moi où j'ai un grand châssis et une toile que je suis en train de peindre, ce qui est vraiment un luxe génial. Donc, c'est super. J'ai vécu un peu à l'étranger, tu vois, j'ai beaucoup voyagé. J'aimerais bien peut-être avoir il y a quelque chose là que j'aimerais bien mettre en place, c'est vraiment avoir un pied-à-terre un peu en campagne. Ça, j'aimerais bien un espace pour aller peindre, écrire tranquillement, mettre de l'opéra à 3h du matin, tu vois, sans déranger personne, et dormir dans la journée, tu vois, si je veux, enfin vraiment d'être dans un lieu de processus créatif tranquille où j'ai pas justement des bagnoles de police ou des trucs qui passent en bas de chez moi, tu vois, des choses un peu... Ouais. Ouais. Non, en fait, tout me va. Tout me va.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
Je crois profondément que je suis. Alors, si je crois à la réincarnation, alors attention, on rentre dans les trucs, hein, mais j'observe, et je n'ai pas d'autre choix que de le regarder très en face, que nous ne venons pas tous avec les mêmes choses. Nous ne partons pas tous du même endroit, et que même en naissant dans une famille, nous n'arrivons pas avec les mêmes choses, et que même deux frères et sœurs, voilà, vont pas tourner de la même manière. Et donc, j'ai eu beaucoup de cérémonies chamaniques, beaucoup d'espaces de guérison, etc., dans lesquels j'ai eu accès à vraiment des choses terribles avec lesquelles j'étais revenue. Dans ce corps, dans cette chair, et dans voilà. Et donc c'est vraiment, ça parle de blessures invisibles, mais un peu difficile à expliquer. Mais je crois vraiment. Enfin, je plaide profondément. Et ça parle aussi de la maternité, mais vraiment pour une naissance en conscience. Pendant mes années journalistiques, j'ai passé un an à la Pitié-Salpêtrière à observer et à assister à une cinquantaine d'accouchements, et de voir moi aujourd'hui dans les traumas beaucoup de gens extrêmement traumatisés par leur naissance. Voilà, que c'est, ça commence par là aussi, hein. C'est extrêmement politique de toute façon, la naissance, on le sait, et le corps des femmes encore plus.
Ouais, bah, tu vois, c'est marrant parce que c'était un ami qui me racontait que son enfant criait énormément et compagnie. Et ça date d'il y a peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Et il m'expliquait qu'en fait, ils avaient fait revivre la naissance à leur bébé. Et au moment où le bébé avait senti l'odeur de l'anesthésie de la péridurale, le bébé était devenu vraiment rentré en transe. Et que depuis, voilà, ils avaient réussi à faire, enfin, quoi exactement, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le bébé, après, a été beaucoup plus apaisé et aller beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai découvert, et je me suis dit, mais ouais, c'est incroyable en fait, de quand tu as conscience de ça. C'est vrai que tu dis qu'un accouchement, c'est quand même très violent, et qu'en fonction de comment la maman est préparée, tu vois, un moment où j'étais enceinte, je regardais Baby Boom, l'émission sur TF1, et tu voyais en fait ces femmes qui accouchent. Enfin, moi j'ai vécu deux accouchements, un avec péridurale et un sans péridurale, celui sans péridurale, c'était parce que bon, bah, ma fille est arrivée très vite, mais qu'au final, par rapport à ma santé, c'était mieux que j'accouche sans péridurale. Et donc je pense que les choses au final étaient bien faites. Et si tu veux, quand je voyais sur Baby Boom ces femmes qui accouchaient et qui avaient l'impression qu'elles allaient mourir, mais moi j'ai vraiment eu ce sentiment-là, si tu veux, au moment où j'ai accouché de ma fille. Il y a un moment, la douleur était tellement forte que je me suis dit, je vais mourir en fait, je ne peux plus supporter cette douleur. Et la sage-femme qui était là m'a dit, m'avait prévenu en fait au début de l'accouchement en me disant voilà, vous n'allez pas avoir de péridurale, il y a un moment vous n'en pourrez plus, mais vous allez voir, vous allez réussir à retrouver une force en vous. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu vois, j'ai vraiment pris conscience que le fait d'avoir été préparée, tu vois, j'avais fait un peu de chant prénatal, de yoga, j'avais fait complètement beaucoup de yoga prénatal, c'est qu'en fait, j'ai été maîtresse et active dans mon accouchement, vs toutes ces femmes que je voyais qui accouchaient sans péridurale et qui n'avaient aucun outil. Et je me suis dit, finalement, par rapport à une douleur qui est quand même très, très violente, à laquelle on peut te préparer, mais je pense que quand même, tu n'y es pas vraiment préparé. Le fait d'avoir des outils et d'être conscient de tu peux la maîtriser, en tout cas, ça te change complètement la facette du truc, quoi.
Ouais, et dans les... je ne sais pas si tu as déjà participé à une hutte de sudation.
Non, jamais.
C'est vraiment un des endroits chéris. J'aime beaucoup cette place-là. Et en fait, et vraiment, on peut revivre beaucoup d'étapes de la naissance. Et parfois, même accoucher de quelque chose d'énergétique presque. Mais tu vois, tu peux vraiment sentir que ton corps... tu vois, moi, je n'ai pas encore accouché. Et je me suis retrouvée vraiment à quatre pattes, je ne sais pas, comme une louve, vraiment à hurler, à accoucher. Donc, comme si se laisser traverser par des versions de soi qui sont amenées à mourir aussi. C'est pour ça que un de mes stages, là, tu vois, au mois de mars, s'appelle « Renaître à soi », parce que c'est vraiment ça aussi. C'est vraiment ce truc de comme si je faisais un pont à l'envers derrière et que ma tête repassait entre mes jambes. Mais en permanence, je ne fais qu'effeuiller mon être et me transformer et changer et me rapprocher un peu plus de qui je suis à chaque fois.
Ouais. Quelles sont tes peurs aujourd'hui et comment tu les traites ?
Alors, les peurs aujourd'hui. Écoute, l'entreprise quand même, c'est un... J'ai peur de trop travailler. Ça, c'est un truc... j'ai peur de pas... je me vois un peu, tu vois, il y a toujours un truc à préparer, il y a toujours un truc qui m'éloigne un peu de l'écriture et de l'artistique. Et en fait, en même temps, c'est marrant, je suis contente d'être à l'URSSAF artiste-auteur et à l'URSSAF entrepreneur. C'est symbolique, mais en fait, c'est vraiment mes deux facettes. Et je sens bien que... Voilà, j'ai peur de ne jamais donner assez de place à mon artiste.
Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui ?
Je suis très fière de mon couple, qui n'est pas une mince affaire et qui est, c'est beaucoup de travail. Je découvre ça. Moi, j'ai longtemps été célibataire et je nourris beaucoup mon couple d'espace, vraiment de dialogue imago, de choses. On a beaucoup d'espace de discussion. Je vois qu'à chaque tension, on a vraiment... L'un et l'autre voulons cheminer et avancer ensemble et je trouve très beau de nous voir nous asseoir avec un bâton de parole, tu vois, être vraiment dans un grand respect. Voyant l'un et l'autre aussi où est-ce que ça appuie sur des boutons d'enfance et je suis j'ai mis beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement et je suis fière de ça, ouais, vraiment.
Est-ce que il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
Très très bonne question. Je trouve vraiment très important de dire aux gens, j'aurais aimé vraiment qu'on me dise et qu'on me répète que ce que j'ai à dire est très important et que ma voix vaut d'être entendue et que je ne le dirai pas de la même manière que quelqu'un d'autre. Et vraiment, c'est hyper important au moment où... pour qui que ce soit d'ailleurs, qu'on te dise « Mais attends, il y a plein de podcasts de développement personnel, mais attends, il y a plein de... Attends, il y a 200 000 coachs, attends, on s'en fout en fait. » C'est vraiment toutes les vibrations. Et ce que je dis, je vais le dire avec l'expérience que j'en ai. Et j'aime beaucoup ça, le point de vue d'auteur en fait. Je trouve ça vraiment très important. Et que qui que ce soit à l'abribus... a quelque chose à dire. C'est bien ça, d'ailleurs, le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde a un truc à dire et ça devient un peu foire d'empoigne. Et en même temps, je trouve quand même assez super que tout le monde puisse s'exprimer.
C'est Christine Michaud, je ne sais pas si tu la connais. Et Christine disait qu'en fait, il y a eu un moment qui a été assez marquant dans sa vie. C'est un éditeur qui lui a dit, elle a discuté avec un éditeur et il lui disait « Mais pourquoi tu n'écris pas ?» Et donc, elle avait répondu « Mais en fait, tout a déjà été écrit sur ce sujet-là. » Et il lui a dit « Oui, mais pas par toi. » Et en effet, tu vois, parfois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais vous êtes concurrents, machin. » Je dis « En fait, non, parce que finalement, on a tous, en effet, notre histoire, notre prisme. Et tant mieux qu'il y ait une diversité de podcasts sur le développement personnel et tant mieux qu'il y ait une diversité de programmes parce que finalement, chacun va pouvoir se reconnaître dans tel ou tel programme. Et puis aussi, chacun va pouvoir écouter plusieurs podcasts. Et en fait, c'est la somme de tous les messages qui va faire que ça va faire cheminer, en fait. »
Ah oui, puisque vraiment, je trouve que moi, tu vois, par exemple, avant d'aller à une formation, etc., je vais vraiment écouter l'énergie des gens. La voix, c'est hyper important, la manière dont ils disent les choses, leur posture. Et je trouve ça super qu'il y ait plein d'espaces où on puisse dire « Attends, tiens, je vais aller écouter, je vais aller un peu goûter de son énergie. Ça me plaît, ça me parle ou pas du tout, mais peut-être que ça va parler à quelqu'un d'autre. » Il y a plein de gens qui font plein de bien à plein de gens. Donc ça, c'est super.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Revois tes enjeux tout le temps. Quels sont tes enjeux? Et c'est mon amie Alexandra Huguetto que je remercie ici et qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'enjeu, en fait, vraiment de l'enjeu. Avec Alexandra, on s'est fait une liste des livres qu'on aurait à écrire et quand on a atteint 15 livres chacune, on s'est dit qu'en fait, c'est un énorme enjeu. c'est pas juste en fait écrire des livres, ça s'appelle une carrière en fait. Donc voilà, donc c'est un peu le. Mais de prendre en fait l'enjeu de quelque chose. Plutôt que de juste se dire allez on sait un projet après un autre etc mais c'est quel est l'enjeu pour moi ça c'est très éclairant dès que j'ai quelque chose qui m'est proposé ou que j'ai une idée je me dis ok est-ce que ça sert vraiment mes enjeux là pour moi et chaque année je peux avoir des enjeux différents évidemment
ouais. Et c'est un bon lien avec ma question d'après sur c'est quoi tes prochains défis
alors vraiment donc l'écriture à fond. L'écriture à fond, je voudrais lancer une formation en ligne autour vraiment des constellations et de... Alors, pas faire des constellations, il y aura évidemment des rituels, etc. Mais je voudrais vraiment travailler sur l'arbre, voilà, sur son arbre, sur... Et puis parce que je crois que j'ai vu 2-3 petites choses que j'ai pas vues ailleurs justement et que j'aimerais vraiment apporter sur justement quelque chose davantage d'aller dans la gratitude pour les ancêtres plutôt que de les voir comme des poids énormes. Ça j'aimerais bien une belle formation en ligne et puis
mais pour accompagner du coup les personnes pas les accompagnants mais pour accompagner
c'est ça.
Le kidam.
Exactement, qui se dit, oh là là, mais moi, je sais pas d'où je viens, ou je sens que c'est hyper lourd dans mon arbre. Oui, vraiment de gens qui voudraient cheminer quand même un peu avec voilà, ces lignées de femmes, ces lignées d'hommes, le travail aussi. Les constellations, c'est extrêmement transversal. Hein, on peut aller regarder, on peut consteller une endométriose, on peut consteller une maison qui ne se vend pas, un projet, un livre qu'on écrit aussi pour savoir où va aller le. Voilà. Donc, d'aller quand même, j'ai beaucoup, beaucoup de rituels et beaucoup de transmissions sur ces sujets-là. Donc ça, j'aimerais bien. Ça, c'est un des trucs que j'aimerais faire. Et puis, puis personnellement, on verra bien.
Ouais. Est-ce que tu as un conseil de lecture ?
Un conseil de lecture. Alors moi, je l'ai devant moi. Un des bouquins que j'adore, c'est « La magie de voir grand ». Qui est vraiment, c'est un bouquin un peu de coaching, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? Si, j'aime beaucoup, je l'ai ressorti l'autre jour, c'est Trembler mais oser, qui est vraiment pareil, c'est un petit best-seller, c'est un petit bouquin, mais ça c'est super même à offrir à quelqu'un qui se lance. Le Trembler mais oser, Suzanne Jeffers, je crois que c'est ça de mémoire. Un petit bouquin qu'on m'avait offert et que j'aime beaucoup offrir aussi.
La dernière question du podcast, c'est qui je pense va te faire sourire, c'est à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ?
J'ai envie de dire merci à un paquet de gens. Eh bien, je crois que j'ai vraiment... Alors, tu sais quoi ? J'ai envie de remercier... Je vais remercier mes parents. Ça fait un peu Festival de Cannes. Mes parents, je leur ai écrit une lettre de gratitude l'été dernier à l'un et à l'autre, vraiment en choisissant de ne me concentrer que sur justement les jolies choses, que sur les roses et pas sur les épines. les épines, je les ai traînées allègrement voilà, dans des moments un peu festen à plein de reprises voilà, pendant des repas. Et en fait, je les vois aujourd'hui vraiment, je crois qu'on pourrait presque s'appeler par nos prénoms, tu vois, de vraiment comme des adultes auxquels il a été donné de me donner la vie. Mais on n'a plus du tout ce rapport très vertical, voilà, tu vois. Et il y a quelque chose où je les ai vus, j'ai eu la chance de passer 2-3 jours toute seule avec eux juste avant les fêtes. Et c'était magnifique, en fait. Je vois bien, je sens bien les endroits où je vois bien le petit garçon et la petite fille hyper blessés qu'ils ont été dans les corps d'hommes et de femmes septuagénaires aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça hyper beau, en fait, de les entendre me parler de la vie malgré tout. Et j'ai beaucoup mieux compris. Tu vois, je me rapproche vraiment peut-être de mon propre parent intérieur, mais j'ai beaucoup mieux compris les choix qu'ils avaient faits, les questions qu'ils ne s'étaient pas posées, qu'ils avaient choisi de ne pas se poser. Et je voudrais vraiment les remercier de l'abnégation, en fait, vraiment dont ils ont fait preuve à plein de... Et de tout ce qu'ils m'ont offert et transmis. Ouais, j'aime bien. Je ne l'ai jamais remercié dans un podcast, mais en fait, quand même, merci papa, merci maman.
Merci beaucoup, Anne.
Merci à toi.
Et pour retrouver, du coup, tous les liens, je les mettrai sur le blog et sur Instagram. Et tu peux nous donner, du coup, juste 2-3 infos si les gens veulent connaître mieux ton travail.
Voilà. Donc,
encore mieux.
Mon site internet, c'est annecazaubon.com, C-A-Z-A-U-B-O-N. Je suis sur Instagram, sur Merci un inconnu, en compte Instagram et sur Facebook aussi. Et puis, voilà, sur mon compte personnel. Venez m'envoyer vos belles histoires de gratitude. Je vous accueille volontiers dans mes stages, mes retraites, ou pour faire un pas de plus vers vous, volontiers. Merci Charlotte pour cet échange.
Avec grand plaisir, merci Anne.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous mets tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une autre femme hors du commun. Après avoir été SDF et toxicomane, Ashley est aujourd'hui maman solo et entrepreneuse. Si le podcast te plaît, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse-moi un message et un commentaire sur Apple Podcast. Je te dis à vendredi dans la newsletter de Pourquoi pas moi ?